Bienvenue dans Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réunis. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi des actus, des découvertes et les derniers épisodes du podcast. Inscrivez-vous sur www.entreprendredanslamode.com. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute.
C'était pas très grave.
Ouais. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Sophie Braffman. Elle est journaliste et réalisatrice. Salut Sophie.
Bonjour Adrien.
Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît?
Oui, je me présente avec ce très beau micro rose. J'aime beaucoup. Alors, on est
à la radio.
Ouais. On est en radio, podcast, donc on ne voit pas ce magnifique micro rose, mais moi je sais qu'il est rose. Me présenter, alors c'est dur de se présenter.
C'est hyper dur, mais c'est pour ça que je commence par la plus dure en fait.
Mais c'est vrai, t'as raison, ça met
ça,
tout de suite
c'est
dans
facile,
le bain.
Ouais.
C'est une grande plongée. Alors, donc comme tu l'as dit justement, je suis journaliste depuis quelques années déjà. J'ai démarré en presse écrite, presse féminine, le magazine Marie-Claire, à l'époque avec Tina Kiefer, voilà, que j'aime beaucoup, parce que j'ai été faire récemment quelque chose avec elle au Cambodge. Bon, voilà, petit aparté. Et en fait, j'ai démarré dans la presse écrite assez naturellement parce que j'ai fait une maîtrise de lettres. Donc, je ne savais pas, je cherchais, je me destinais plutôt
D'accord.
à un
Mais
métier.
Mais t'étais amoureuse des mots quand même.
J'étais amoureuse
des mots.
J'étais amoureuse des mots. Oui, oui, oui. Alors, j'avais pas le fantasme d'être écrivain, je crois, parce que j'avais certainement pas assez de talent. Mais en tout cas, j'étais amoureuse des mots et j'étais à l'aise avec les mots, beaucoup plus qu'avec l'image. Et l'image est venue bien après, puisqu'en fait, quand j'étais au Marie-Claire, concours de circonstances, une des journalistes de la rédaction est mutée sur une émission sur France 5 qui s'appelle Les Maternelles, qui existe toujours d'ailleurs, que tu connais. Et je suis enceinte à ce moment-là, et la veille de mon accouchement, elle m'appelle pour me dire « Tiens, et si tu venais nous rejoindre dans l'équipe des Maternelles ?»
Ça tombe pile poil.
Voilà, ça tombe pile poil, exactement. Bon, je ne suis pas arrivée tout de suite le lendemain de mon accouchement, tu t'en doutes, c'était peut-être pas la période idéale, j'ai attendu une semaine quand même. Et voilà, et donc ça s'est un peu enchaîné comme ça. Donc une forme de hasard aussi, et je crois pas mal à ça, ou des rencontres à des moments donnés, voilà, qui font que tu te retrouves en télé alors que tu avais démarré en presse, et puis après de télé, d'une télé à une autre.
Ouais. Mais tu l'avais imaginé ça, de faire de la télé un jour?
Non, pour être tout à fait honnête, pas vraiment.
Dessus,
oui, et comme tu dis, j'étais vraiment dans une réflexion plutôt à l'aise avec les mots, envie d'écrire. J'ai fait cette maîtrise de lettres et du coup. Je savais pas. L'écriture journalistique, c'est assez différent d'ailleurs de ce qu'on apprend en fac de lettres. Ça n'a rien à voir. Donc, il fallait écrire des brèves, être beaucoup plus concis. Il fallait apprendre ce que c'était des caractères, ce que c'était un feuillet, etc. Voilà. Alors, un feuillet, tu as raison de poser la question. Un feuillet, ce sont 1500 signes. Mmh. Et en fait, en général, on définit un papier par le nombre de feuillets. Donc, par exemple, quand on te commande un papier, on te dit, j'ai besoin de 5, 6 feuillets ou alors 4 feuillets. Et quand on parle de mode, justement, parce que j'ai eu l'occasion aussi de faire des papiers au service mode. Mmh. Mais alors, c'était des papiers peut-être avec un angle un peu socio, parce qu'alors, il n'y a pas beaucoup de textes en mode. Donc, on va donner un angle sociologique. Je sais n'importe quoi. Les hommes jugent la mode. Donc, on fait un micro-trottoir avec 4 jeunes hommes qu'il faut caster. Ça, c'est sympathique. Et qui décryptent les looks qu'ils ont vus. Voilà. Donc, typiquement, ce genre de choses où là, le texte, tout d'un coup, revêt moins d'importance que l'image. Parce que l'image est quand même primordiale. Quand on parle de mode, évidemment. Donc, je sais pas. J'ai l'impression que ça s'est dessiné un peu malgré moi. Et en même temps, ça a l'air incohérent comme ça. Mais ça me semble cohérent. Au final. Donc, des rencontres et qui t'amènent après d'une émission à une autre, d'un sujet à un autre.
Mais t'as grandi où ?
Alors, j'ai grandi en Hollande. Je sais, tu demandes ça car tu as on ne la voit pas non plus, mais ma belle carafe sur la table qui vient de Rotterdam. Et un
Donc
pays.
Tu es hollandaise.
Alors, j'ai des origines, j'ai des origines hollandaises et polonaises. Et donc, je parle néerlandais.
Mais c'est vachement bien.
Tu crois que c'est utile ?
Bah, je sais pas. En tout cas, pour draguer les Hollandais. Ça va,
voilà. Ouais. Bah, écoute, c'est Pierre Lescure un jour qui m'avait dit sur. J'ai travaillé avec lui à l'époque de Paris Première et qui m'avait dit bon bah si la télé ça marche pas, vous pourrez toujours vous reconvertir dans le deal de shit ou un coffee shop quoi. C'est pas mal, tu vois. Donc ça donne un peu l'étendue de l'intérêt que représente le Hollandais pour les gens. Alors que la Hollande est un pays exceptionnel. J'ai d'ailleurs lu un truc intéressant récemment sur un créateur néerlandais.
Ouais.
Van de Kemp.
D'accord.
Ronald Van de Kemp.
Ça me parle, ouais.
Voilà, qui alors, est à fond branché dans la fabrication éthique, écologique, l'upcycling, etc. Donc, sur ces choses-là, qui sont des sujets quand même très actuels, ouais. Ils ont un temps d'avance sur nous, je trouve. Et alors, quand on se promène en Hollande, par contre, on est étonné du look des gens. C'est, si on compare avec Paris,
ouais.
C'est, voilà, il y a un côté, on peut se balader comme on veut, quoi. C'est très confortable, hein. On peut.
En Hollande.
Ah oh, oui, oui, oui. On est très à l'aise avec la mode. On est très à l'aise avec le corps aussi, avec la nudité. Là où nous, on cache beaucoup.
Et toi, t'as gardé de ça un petit peu?
Bah, j'espère, ouais. Alors, je me balade nue chez moi, c'est pour ça. Non, j'espère avoir gardé un côté un peu.
Nature.
Ouais, ouais. Nature. Mmh. Voilà, un côté un peu décontracté. Quoique, il paraît que laisser pousser ses poils maintenant aussi, c'est redevenu à la mode. Enfin, chaque année, hein, on a ce marronnier un peu qui consiste à dire les poils, ok. Non, oui, j'essaye de garder un côté. J'aime bien ça chez eux. Je trouve qu'il y a un côté un peu franc du collier. Là, nous, on est un peu plus louvoyant, peut-être.
Oui.
Et un peu plus raffiné aussi, certainement. Donc, voilà, j'essaye de garder un peu des qualités.
Et pourquoi t'es pas resté là-bas, alors?
Alors, je suis partie parce que mes parents sont partis, tout simplement. Mon père, en fait, était prof de philo dans le lycée français de La Haye.
Mais ceci explique cela. Alors, si t'as fait l'aide, c'est parce que, bon, il y avait des affinités au départ, quoi.
Ben oui, je crois, hein, c'est un peu ça. Alors, pas philo, hein, parce que philo, ça me paraissait un peu déprimant,
mais
quand
bon,
même.
Il y avait quand même cette envie, cet amour des mots, de la lettre, de la pensée, etc.
Et écoute, t'as raison. Je pense même que j'avais envie d'être prof au démarrage.
Ah, ouais.
Mais à un moment donné, tu vieillis, tu grandis, et puis tu te dis ah tiens, quand même, aller enseigner là tout de suite à des gosses de 12-13 ans, même si moi je suis passionnée, que le sont pas forcément, ou alors transmettre, c'est compliqué comme, donc c'est vrai que oui, je pense que j'avais envie de faire ça au début.
Mais dans le journalisme, il y a cette idée de transmission quand même.
Un peu, c'est vrai, mais j'ai l'impression que t'as pas de, comment je pourrais dire, t'as pas d'obligation au résultat. Alors, t'es jugé, certainement, et puis on peut dire si ça va ou ça va pas, mais là, quand t'as des enfants, des élèves, donc ils sont vraiment en devenir...
Ouais, un vrai enjeu.
Voilà, tu dois les emmener quelque part. Et puis, je trouve aussi, pour être tout à fait honnête, que... Alors, c'est un métier que je respecte énormément, mais que les conditions des profs se sont clairement dégradées. Mmh. Et je trouve que leur métier est difficile. Après, je suis très admirative. Moi, j'ai un fils de 14 ans, et quand je vois les profs au collège, le boulot qu'ils font...
Ouais, t'es hyper admirative.
Ah ouais, je suis plus qu'admirative. Je trouve ça super. Et puis, faire lire des gosses aujourd'hui, c'est un vrai, vrai challenge. Hein. C'est pas évident quand même.
Peut-être qu'on y viendra plus tard quand on parlera du futur des médias.
Ouais.
Parce que tu t'en as parlé très rapidement, mais tu passes de fac de lettres à Marie-Claire. Comment on se forme? Enfin, c'était une envie d'aller chez Marie-Claire, etc. Cet intérêt pour la presse féminine, etc. Ça vient de quoi?
Alors, au démarrage, en fait, j'ai cherché... Donc, c'est un peu ça qui est compliqué quand on fait des études aussi, parce que toi, c'était il n'y a pas si longtemps. On ne sait pas...
Je suis vieux, mais j'étais encore étudiant il n'y a pas si longtemps.
Voilà, tu vois. Donc, et puis après, on se forme aussi un peu toute sa vie. Je crois que c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Mais tout d'un coup, on a 21, 22 ans, on a une maîtrise en poche. Ah bon, voilà, on décide de ne pas passer le CAPES. En l'occurrence, c'était mon cas. Il y a plusieurs opportunités qui s'ouvrent. Ouais, on se pose des questions. Moi, l'édition m'intéressait aussi, donc j'ai fait un stage dans l'édition. Il se trouve que le stage ne m'a pas particulièrement plu. Donc, en fait, j'étais dans une phase où je cherchais. Si j'avais fait un stage exceptionnel, peut-être dans cette maison d'édition, Albin Michel à l'époque, peut-être que je me serais trouvé une vocation, ou en tout cas, j'aurais envie de continuer, parce que je trouve que l'édition, c'est pareil. C'est fascinant, quoi, d'aller découvrir des auteurs. Et à ce moment-là, donc, je cherche un stage en presse, et je crois que j'ai dû envoyer 3 CV. Et donc, j'ai été.
Marie-Claire.
Voilà, Marie-Claire m'a répondu à ce moment-là. Il se trouve que le rédacteur en chef culture de l'époque, qui est toujours le même, hein, il me semble, ça n'a pas bougé, eh bien, revenait de congé maladie. Donc, ça m'a clairement arrangée. C'était une bonne nouvelle pour moi, parce que du coup, j'avais pas la simple. J'étais pas juste là pour faire des cafés. Il fallait vraiment, en fait. Lui, il avait été absent pendant pas mal de temps. Et donc, il fallait lui faire des fiches sur tous les livres de rentrée. Il fallait aller voir des spectacles, le tenir au courant des nouveautés culturelles de la rentrée, etc. Et très vite, ça, c'était aussi... Tina Kiefer, elle avait vraiment ce truc-là qui était très chouette. Elle m'a filé une page, en fait, très rapidement. ça s'est fait, voilà, bon, en gros, ah bah on a ça, tu veux le faire, ah bah fais-le. Voilà, elle a ce côté très...
Hands-on, ouais, tu vas-y.
Ouais, voilà, ouais. Exactement. Et quand t'as 22 ans, 21 ans, c'est super, c'est parce super. Que, quitte à ne pas aimer, hein, des fois, mais en tout cas, elle donne sa chance au produit, pour parler vulgairement, mais je trouvais ça, donc ça tombait bien, et donc ça s'est fait un peu comme ça, et puis au final, je me suis dit, ah, mais c'est vachement sympa, en fait, c'est intéressant. Là, au début, c'était des rubriques culturelles. Donc,
ton premier article?
Il me semble que c'était... Alors, je me rappelle de ma première page, mais alors le premier article... Non, la première page, ça s'appelait « Envie de sortir et de rester ». Et donc, c'était une page qui était splittée en deux, avec d'un côté tous les spectacles que tu pouvais faire à l'extérieur, donc typiquement théâtre, cinéma, etc. C'était des coups de cœur. Et l'autre, c'était les bouquins et la musique, tout ce qu'on fait à la maison. Et avec une image forte et trois lignes. Et le premier article... Après, j'ai bifurqué assez vite sur des sujets. Ah, j'ai fait, si, ça, j'en suis assez fière quand même, c'était drôle. Elle m'a rapidement donné des papiers dans le supplément érotique de l'été, supplément sexo. Et on avait monté, ça c'était au tout début, un dossier amusant qui s'appelait « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?» Et donc, une jeune femme allait voir des inconnus dans la rue. Donc, c'était quasiment... C'était une caméra cachée, hein, presque, mais il fallait le faire en presse écrite. Donc, on faisait des photos en paparazzi. Et elle allait voir des mecs, comme ça, au hasard. Et l'enjeu, c'était qu'au bout de 2-3 minutes, elle leur dise « Vous voulez coucher avec moi ce soir ?» Et c'était très drôle de voir la réaction des hommes parce que on a vraiment tout eu, quoi. Il y a des mecs qui étaient complètement dépités, angoissés, d'autres qui regardaient s'il y avait pas une caméra, effectivement, à gauche, à droite. D'autres, au contraire, bah, pourquoi attendre ce soir? On y va tout de suite. Ah, non, ma femme est là, donc c'est dommage, je ne pourrais pas. Enfin, c'était, voilà. Donc, on était loin de la mode, hein, quand même, à ce moment-là, hein. C'était vraiment, autre chose. Et voilà. Donc, elle m'a donné cette chance-là et en fait, de fil en aiguille, après, je pouvais proposer ou elle m'aiguillait, prêter des discussions, comme ça se fait toujours dans les magazines, quoi, pendant des conférences de rédaction. Et puis, ouais, où est-ce qu'on en était ? C'était sur le parcours ?
Ouais, sur le parcours. Non, mais là, ça me fait penser à un truc. C'est quel regard tu portes aujourd'hui sur la presse féminine ? Marie-Claire, alors, enfin... J'ai dû ouvrir des Marie-Claire, enfin pas très souvent.
Ouais, quoi, hein, dans la salle d'attente peut-être. Dans la salle d'attente du médecin.
Et je me rends pas compte dans quelle mesure c'est mode. Enfin, il y a des pages mode, mais c'est pas forcément mode.
Alors là, ça a beaucoup changé. Maintenant, j'ai l'impression que, en tout cas, c'était un magazine qui était très de mon temps. J'en parle. Enfin, d'avoir 1000 ans, mais il y avait un engagement très fort pour les femmes, avec un point de vue idéologique assez marqué. Là, la mode a beaucoup d'importance dans le Marie-Claire actuel, en tout cas, hein, si on doit parler de ce journal-là en particulier. La mode est très importante. J'ai l'impression qu'après, sur des grands débats de société, ça l'est peut-être un peu moins. Donc le Marie-Claire devrait t'intéresser aujourd'hui parce que il consacre des grandes pages à la mode. Concernant la si je pense à la presse féminine en général, elle a forcément énormément changé. Moi, je parle de la presse et c'est pas si vieux, c'est les années entre 2005 et 2010 par exemple. Mais c'est à un moment où il y a pas autant de choses, il y a pas Instagram, il y a pas les réseaux sociaux, enfin en tout cas pas de façon si prononcée, il y a pas tous les contenus qu'on peut avoir aujourd'hui sur YouTube. Donc la presse féminine à ce moment-là, elle est encore très 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 importante et très du lue. Coup très lue. Et moi, j'ai bossé par exemple pour des magazines qui ont fermé aujourd'hui. Je pense au magazine Bee, tu vois, qui était une succursale du Elle. Enfin, ça appartenait à Lagardère. Ce genre de magazine, des Cosmo, des Biba, qui avaient vraiment leur lectorat. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en tout cas, les jeunes filles de 20 ans, est-ce qu'elles achètent un magazine ? Je crois pas. Elles achètent ou alors un et puis elles le partagent à quatre, voire elles vont voir les magazines en ligne. Alors ces magazines-là existent aussi aujourd'hui en ligne. Mais du coup, c'est pas le même contenu. Donc c'est un contenu qui change et l'image a une nette importance. Enfin, elle était déjà à l'époque, mais là, tout d'un coup, le visuel est essentiel. Donc j'ai l'impression quand même que ça a beaucoup changé.
Et sur les sujets de fond, parce que j'ai le sentiment, et quand je parle avec les gens, ce que j'entends, c'est que la presse féminine avait un vrai rôle sociétal à l'époque. On parlait de vrais sujets de mœurs, de politique, etc. Et quand t'ouvres, c'est vrai, quand t'ouvres des bouquins, enfin des Vogue des années 70,
c'est
etc.,
vrai.
Tu vois les sujets, tu dis, mais...
C'était beaucoup plus fort.
Ouais, c'était beaucoup plus fort. Ouais. Il y avait une vraie modernité, il y avait une liberté d'expression qui était beaucoup plus puissante, quoi.
Ouais.
Aujourd'hui, j'ai l'impression que bon.
Alors, je pense que c'est déjà plus difficile d'aborder certains sujets parce qu'on est dans une ère aussi plus polissée. sans puritaine, doute, ouais, plus puritaine, bizarrement, alors que enfin, les mômes n'ont jamais été autant exposés à des images de cul, et tu montres un bout de sein sur Instagram, on te le censure, donc un téton, et c'est terminé. Donc c'est très très paradoxal. Ouais. Mais du coup, c'est des sujets qui sont difficiles à aborder. Moi, j'ai le souvenir aussi, quand j'ai démarré en télé, par exemple, la presse féminine servait de référence. Et on te demandait régulièrement, moi j'ai beaucoup de journalistes qui m'ont racheté des papiers, enfin ils te les achètent pas si tu veux, mais ils te demandent en gros voilà le secret de fabrication, ouais. Exactement, alors des fois en le citant, ou j'avais fait un article par exemple je suis une ancienne moche, tu vois, typiquement oui c'est drôle, mais en fait c'est l'histoire du vilain petit canard, il vaut mieux avoir été moche petite et puis être belle après toute sa vie, hein. C'est mieux c'est que dans le sens inverse, ouais. Voilà, parce qu'on est vieux plus longtemps que jeune, donc finalement c'est pas grave. Et typiquement tiens, ça ferait un bon sujet en télé, etc. Donc j'ai l'impression qu'en fait les rédactions, et moi souvent on m'a demandé cette expertise-là en télé, lisaient beaucoup la presse féminine, s'en inspiraient et repatouillaient ça pour en faire des sujets de télé. Donc à ce moment-là, la presse écrite, elle était prescriptrice, compliqué. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on cherche une source d'inspiration, on se tourne pas nécessairement vers la presse écrite. Sur le web. Moi, j'ai vraiment l'impression que, alors sur le web, c'est pareil, c'est très vaste, mais on va suivre, j'aime pas le terme influenceuse, pareil, mais une nana qu'on aime bien, qui a un propos, qui tout d'un coup affiche quelque chose d'un peu dissident, peut-être, ou qui a un univers très propre à elle, qu'elle soit très suivie ou pas, mais tout d'un coup, elle défend elle-même quelque chose. Pourquoi pas écouter un podcast, hein. Aujourd'hui, pareil, c'est des médias où il y a une grande liberté de ton, on peut se permettre un certain nombre de choses. Il y a aussi, pareil, la scission, là aussi, elle s'est faite. Avant, les marques, envoyer des marques, par exemple, elles sont là parce qu'elles vendent, elles proposent un produit. Et aujourd'hui, on voit bien que les marques ne peuvent pas se satisfaire de ça. Ou alors, on est dans une marque qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de sens. Mais il y a beaucoup de marques, par exemple, qui ont des communautés et qui donc ont des points de relais avec des gens qui savent très bien raconter ce qu'elles font. Et qui ont un univers aussi qui leur est propre. Donc en fait, la pub peut être très créative aussi aujourd'hui et pas uniquement là pour vendre du temps de cerveau disponible pour acheter du coca, comme on disait à l'époque chez TF1. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est plus les limites sont plus floues. Et c'est une bonne chose, parce que du coup, il n'y a pas une source d'inspiration, mais il y en a pléthore. Ouais. Et donc, dans la nouvelle donne, c'est peut-être un peu dur pour la presse en général de se réinventer, et pour la presse féminine peut-être en particulier. Je pense aussi à des sites comme Au Féminin, qui ont un peu tué le truc, parce que du coup, c'est énorme, je ne sais plus quelle est... c'est incroyable. Alors bon, après, attention, hein, parce qu'il y a aussi... il faut effectivement faire un tri entre tout ça, parce qu'il y a beaucoup de contenus qui sont des contenus sponsorisés, des contenus qui sont repris, alors que la presse, à côté de ça, peut se permettre d'autres choses. Mais bon, on dit toujours, ah oui, mais alors les sites, c'est pas bien parce qu'ils ont des annonceurs. Bah oui, mais la presse féminine aussi, on avait des annonceurs. Donc, est-ce qu'elle était totalement détachée de ses annonceurs à un moment? Voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On est bien obligé de faire rentrer de l'argent quand on a un magazine, donc c'est logique aussi. Mais en tout cas, je me dis qu'on peut pas se contenter aujourd'hui. Les sources, elles sont multiples. Après, c'est pas parce que tous ces sites-là existent et qu'aujourd'hui, il y a toute cette offre que la presse féminine n'a pas sa place et a un rôle à jouer. C'était une rédactrice à l'époque, je crois, qui m'avait dit ça. Oui, bah, il y a l'ascenseur, mais on continue de prendre l'escalier. Bon, bah, c'est pareil. Comme la télé, pareil, ça change beaucoup aussi. Il faut que la télé se réinvente. Est-ce que ça veut dire qu'elle va disparaître parce qu'il y a des nouveaux médias? On verra, mais je suis pas sûre.
J'ai perdu ma question.
Moi aussi, je perds mes fils, hein, c'est normal.
je pensais à... Non, je pensais à ça. Je pensais à l'indépendance de la presse féminine, justement. Est-ce que toi, à l'époque, et encore une fois, excuse-moi parce que j'ai l'impression que tu viendrais d'une autre époque en posant une question comme ça.
Pas tant que ça.
Est-ce qu'il y avait déjà ces problématiques d'indépendance de la presse féminine vis-à-vis des annonceurs? Aujourd'hui, on te dit, t'ouvres un magazine de mode. En fait, les magazines de mode et les magazines de presse féminine se sont tirés une balle dans le pied parce qu'elles ne font plus leur taf, en fait.
Ils peuvent plus. Ouais. En fait, ils peuvent plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont obligés, c'est quasiment exclusivement du contenu sponsorisé. Certains, sinon, enfin, ont fermé boutique hein, depuis. Donc, je pense aussi avec tout ce qui s'est passé avec Glamour. Voilà, donc ça a été racheté par des groupes qui ont, eux, pour vocation... Alors, encore une fois, c'est toujours le problème de l'indépendance.
Qu'est-ce qui s'est passé avec Glamour ? Parce que je sais pas.
En fait, ils ont été rachetés par un énorme groupe. Alors, j'ai plus le nom du groupe en tête. Mais qui... voilà, il y a des financiers derrière. Il y a des marques aussi qui sont annoncées. Donc en fait, ils ont enlevé les journalistes. Beaucoup de journalistes se sont retrouvés sans emploi en fait très rapidement. Et bon, déjà aujourd'hui, on n'embauche quasiment plus hein, dans la presse. Donc si tu veux travailler dans la presse, t'as intérêt à pouvoir facturer ou enfin c'est limite des auto-entrepreneurs qui se doivent. Donc ça rend les choses très compliquées. Et surtout, c'est des contenus quasiment exclusivement sponsorisés. Donc c'est des brèves et qui vont être reprises un peu partout comme un publi rédactionnel. Quoi. Voilà, c'est ça ce qui se passe en fait aujourd'hui.
Okay, ils peuvent plus jouer leur rôle. Et il le joue plus du tout, quoi.
C'est clairement. Mais comme on assiste aujourd'hui aussi aux limites, quand tu vois sur les réseaux sociaux, par exemple, des influenceuses qui font des posts, et puis sur le même post, tu vas voir qu'elle va te mettre quatre marques qui se ressemblent vachement, dont une parce qu'elle était au voyage de presse à ce moment-là, et l'autre parce qu'elle a son gifting qui est arrivé. Voilà. Bon, c'est de toute façon un exercice périlleux et compliqué. Après, bien évidemment, quand t'es un magazine. Que ce soit de magazine de mode d'ailleurs ou autre, tu dois garder une certaine forme d'indépendance. Donc, il est bien évident qu'à un moment donné, il y a des articles de fond qui vont être publiés et puis qui vont relater un phénomène de société ou là... en mode, c'est compliqué parce qu'on parle avec des marques. Donc, soit on se plonge à l'intérieur de la marque et donc on explique le fonctionnement de la marque. Et puis, mais si on met des produits en avant, on aura toujours ce risque que quelqu'un dise « Ah bah oui, mais d'accord, ok, super, ils nous mettent du Lacoste, mais en fait, Lacoste est annonceur ou... » que sais-je. Bon, oui. Alors, est-ce qu'il faut peut-être pas réfléchir à travailler différemment avec les marques, à aussi peut-être réfléchir à un discours à établir avec ces marques ? Et dans ce cas-là, ça fait moins vendu. J'ai l'impression qu'il y a des passerelles qui se créent, en tout cas, entre les deux. Et que peut-être cette indépendance, comme on, alors à moins d'être sur un JT, voilà, il y a des endroits où, effectivement, il faut garder une forme d'indépendance claire, stricte, précise. Il y a un code de déontologie à respecter. Bon, quand on parle de mode, est-ce que c'est nécessaire à ce point ? Non, mais je me pose la question. Tu vois, je te la pose de façon ouverte. Je réfléchis en même temps, mais je me dis, est-ce qu'on est vraiment obligé d'être déontologique à 100% ? Non, ça n'empêche pas de... Moi, je pense qu'en fait, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est d'entendre des nouveaux créateurs, des marques. On parlait tout à l'heure de gens comme Jacques Mus qui ont émergé. Voilà. Le mec, il a un univers, il arrive avec une histoire, avec un très beau storytelling. Un discours, hein. Est-ce que... Voilà, avec un discours. Oui, alors le journaliste, tout d'un coup, il adhère. Est-ce qu'après, il va devenir annonceur ou pas ? Est-ce que finalement, on va lui faire une faveur en le montrant ? Est-ce que c'est comme ça se faisait à l'époque ? Quand les gens, les marques, elles voulaient sortir, elles se faisaient copines avec des rédactrices de mode. Donc, il y avait aussi une forme d'opération séduction. Aujourd'hui, ça continue de se faire avec d'autres supports. Malgré tout, il y a des articles de fond qui sortent dessus qui sont intéressants. On s'intéresse de plus en plus et la presse en parle. Ça a beaucoup quand même à la fabrication, qui fait nos vêtements, la façon dont on les fait. On connaît les scandales voilà, qui sont liés à toute cette industrie. Bon, bah là, à un moment donné... Moi, je sais que je ne suis pas non plus pour... Enfin, ce n'est pas d'être pour ou contre, mais tu sais, ce journalisme un peu choc, façon complément d'enquête, enquête exclusive, où tout d'un coup, ah, et regardez, on va vous montrer les petits enfants qui fabriquent dans des usines.
Un peu à la Combini en ce moment, je trouve.
Ouais, mais alors, de temps en temps, c'est bien parce qu'on a effectivement un scandale qui sort et puis tout d'un coup, un truc un peu percutant. Mais déjà, il faut après une enquête approfondie derrière. Les caméras cachées avec les micros qui traînent, il faut pouvoir le décrypter aussi. C'est compliqué. Encore une fois, ça dépend vraiment de la façon dont c'est fait. Mais ça peut être assez agressif, des fois. Et on a l'impression qu'on enfonce un peu des portes ouvertes aussi. Alors, éduquer le consommateur, oui, certainement. Le culpabiliser. Regardez ce que vous achetez, c'est vraiment lamentable. Je sais pas. En tout cas, moi, c'est pas ma méthode. Je me dis qu'on peut peut-être y arriver en étant un peu plus soft et puis en expliquant, parce que la consommation, elle a du bon aussi. Elle apporte aussi du travail. Arrêter de consommer complètement, alors, fait quoi ? On va vivre dans sa petite ferme. Moi, je veux bien, mais bien un jour, on aura besoin d'aller acheter quelque chose à l'extérieur. Et donc, voilà, ça crée aussi des emplois. Donc, je pense qu'il faut réfléchir avec un peu plus de bienveillance, quoi, en tout cas.
Et toi, tu pratiquais ton métier, en tout cas dans la presse, je parle, en toute indépendance, d'après toi ?
Alors, Ouais, alors tout, j'ai envie de te dire oui, parce que moi, je me sentais indépendante. Et puis
ce que tu voulais.
Voilà, enfin, j'avais l'impression d'avoir.
J'avais
l'impression d'avoir assez d'autonomie. Mais en tout cas, on m'a jamais dit, on m'a corrigé. On m'a dit des fois qu'il y avait des choses dans le papier qui n'allaient pas, mais parce que c'était mal formulé ou mal dit ou voilà, mal réfléchi. Hein, mais ça c'est le jeu.
Ouais,
exactement. Mais après, j'ai pas de souvenir très clair qu'on m'ait dit à un moment donné, ah non, mais ça c'est délicat, lui on peut pas en parler. Après, des choses qui se font, mais... Là aussi, je vais enfoncer des portes ouvertes. Ah tiens, j'ai une copine qui sort un livre. Est-ce que pareil, une marque émergée ? Mais parce que c'est le réseau qui fait ça aussi. Alors moi, je lutte aussi contre ça parce que je trouve ça difficile de dire ah, attends, si on bosse qu'en réseau, bah, dans ces cas-là, on se retrouve dans un microcosme entre gens qui se parlent entre eux et puis on s'ouvre plus quoi. On vit, mais comme
ouais, c'est dangereux.
Ouais, c'est le déterminisme social. En même temps, on est tout à fait dans cette époque. Les gens vivent aussi de façon un peu clanique, donc il y a ça aussi, ça fait partie du réseau. Alors après, d'être sensible quand dans ton entourage on te propose quelque chose, bon, mais faut continuer de rester ouvert sur le reste. Voilà, disons que l'un n'empêche pas l'autre. Ou après, si ce qu'on te propose, que ça soit une marque ou autre chose, ça te plaît pas, et même si c'est du réseau, essayer quand même. Ça, c'est une introspection qu'on doit faire chacun, de garder quand même une forme d'objectivité, de se dire non, mais je vais pas en parler, c'est vraiment moche, quoi. C'est juste que.
Comment tu choisis tes sujets, toi, aujourd'hui ?
Aujourd'hui, alors, ça dépend des. Je m'adapte au support parce que j'ai travaillé pour des supports très différents. Toi, on parle vraiment mode, hein, sur les sujets mode.
Ouais, mais franchement, moi, je suis hyper ouvert. On sait entreprendre dans la mode, mais. Je suis très ouvert à parler d'autres sujets.
En fait. Ouais, alors, écoute, sur d'autres sujets, j'ai eu un... Au démarrage, disons que c'était des sujets qui m'étaient imposés, clairement, ou en tout cas, des sujets qui étaient importants pour le magazine pour lequel je travaillais. Typiquement, j'avais fait un truc sur des voilà pourquoi les jeunes générations aujourd'hui écoutent les papis du rock. C'est vrai, tu vois des gamins de 15 ans écoutent les Rolling Stones, ça vous dit quelque chose? Ah bah ouais, on écoute. Ah bon, ils ont 70 ans les gars, ils continuent de se produire sur ça. Bon, voilà. Là, c'était donc des sujets comme ça. Après, en fait, au bout d'un moment, finalement, tu resserres et puis tu te crées une petite spécificité. Et du coup, au travers de ça. Oui, je te racontais mes histoires de je suis une ancienne moche. J'aimais bien des sujets un peu psycho, mais en même temps avec un angle un peu amusant. Et puis je trouvais ça drôle à faire. Donc là, je les choisissais aussi en lisant moi-même aussi des fois des articles de presse, c'est-à-dire en allant t'inspirer dans d'autres magazines, en lisant la presse étrangère. Comme je te dis, j'ai grandi en Hollande et puis j'ai grandi en Allemagne aussi. Donc du coup, je trouve ça très intéressant de voir ce qui se fait là-bas parce que l'approche, elle est très différente aussi.
Mais c'est vraiment toi qui as ta ligne éditoriale à chaque fois et qui propose les sujets, quoi.
Après, je propose. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face, t'as un cadre. Donc en général, ces derniers temps, quand je faisais mes rubriques pour cet au programme pour France 2 qui s'est arrêté, j'avais un cadre assez défini. Et quand on parle de mode, par exemple, en télé, on s'en rend vite compte, c'est très difficile pour une raison. Alors, soit on est sur un positionnement très premium et très élitiste qu'on peut se permettre si on est une chaîne comme Paris Première, parce que voilà, encore une fois, c'est très CSP++++ et surtout ça concerne un microcosme dans la population. Maintenant, si on veut parler de mode à un grand public comme c'est le cas sur une chaîne nationale comme France 2 ou voilà une grosse chaîne, on peut pas faire ça en fait. C'est pas possible parce que du coup les gens ça ne les intéresse pas. Et il faut bien se rendre compte des réalités aussi. Aujourd'hui, les gens ont quand même des galères de fric. On l'a vu. Enfin. Voilà, pas besoin de rappeler tout l'épisode des Gilets jaunes, mais on voit bien ce qui se passe aujourd'hui. Alors tout d'un coup, aller se balader au travers d'un défilé avec un ton un peu rigolo, certes, c'est chouette, et puis c'est ce qu'a fait la grande époque de Canal aussi, et puis il y avait un côté précurseur, novateur. Je sais pas si aujourd'hui on
se permet plus ça.
Non, on se le permet pas, et je sais pas si
c'est pas de bon goût, quoi.
Non, ça serait peut-être pas forcément de bon augure. Donc voilà, il faut en tout cas le proposer d'une autre façon. Et en télé, effectivement, réfléchir à un angle conso. Je te dis n'importe quoi, mais voilà les grandes tendances. Ah bah tiens, vous aussi, vous allez pouvoir les acheter. Donc voilà, ça, c'est des choses accessibles. On parle beaucoup de tout ce qui est morphologie. C'est toute cette
ouais.
Voilà, tout ce côté un peu qui a été très bien lancé par Christina Cordula sur M6. Mais alors peut-être que là aussi, on va arriver au bout d'un système à un moment donné, mais En tout cas, l'idée, c'était voilà, de parler à toutes les femmes sans être très excluant, ce qui est la mode aussi. Après, on sait qu'il y a des personnages dans la mode et c'est ce qui intéresse aussi les gens. Donc, il faut vraiment trouver une balance quoi, entre les deux. Parce qu'il faut que ça garde son côté exceptionnel et un peu voilà, étrange et puis fascinant pour les gens qui ne connaissent pas, parce que c'est un côté, c'est les derniers grands spectacles. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand on parle des défilés de mode, on va au théâtre. On va, c'est un cirque quoi, quasiment.
Très court, mais c'est
voilà,
c'est
cirque, excessivement ouais. Court. Donc pour les gens qui n'ont jamais été, vraiment, ça a ce côté fascinant, c'est-à-dire ouais. Qu'on passe plus de temps à attendre qu'à voir le spectacle. Ouais. Et puis le spectacle est dans la salle aussi parce qu'on voit des choses incroyables. Mais il faut trouver voilà une balance entre ces spectacles qui, de toute façon, ont pour vocation d'être extraordinaires et il ne s'agit pas de les rendre forcément accessibles à tous. Et en même temps, voilà, ce que font très bien les influenceuses aujourd'hui via leur réseau, montrer un tout à chacun, proposer des lots. Oui, mais voilà, c'est un peu, on peut se le permettre. Ça, pour la vie de tous les jours, c'est voilà, il faut le rendre accessible. Sinon, c'est de temps en temps un sujet pointu ou alors. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est la fabrication, par exemple. Et c'est un truc, je me dis, en télé, peut-être pas forcément le faire qu'en télé, mais on parle pas beaucoup de la fabrication. On se rend pas compte de ce que c'est que de faire un vêtement. On sait pas ce que c'est, le temps que ça prend, les métiers qui sont derrière, les savoir-faire, l'expertise. Et je me dis que ça, par exemple...
Il faut en parler, ouais.
Ouais, j'essaie.
Et tu penses que ça peut intéresser ? Ça intéresse les
Moi,
gens ?
Je pense que ça intéresse parce que... bon, déjà, il y a une forme de fierté un peu française quand tu parles de savoir-faire, on pense à Colbert, le luxe à la française, des métiers assez exceptionnels. Enfin, on est voilà, on est le pays de la mode et du luxe hein, quand même. Donc voilà, exactement. Donc il y a peut-être
c'est
une
partie de notre culture.
Voilà, ça fait partie de notre patrimoine et donc il y a une forme de fierté. Je sais pas si tout le monde est très concerné par ça, mais malgré tout, voilà, fierté à la française. Et ensuite, en plus de ça, on va valoriser des gens qu'on valorise pas beaucoup et qui sont les gens qui bossent dans les ateliers qu'on a peu l'occasion de rencontrer. Moi, j'ai fait là récemment un sujet à la Comédie Française et en fait, j'ai halluciné parce que moi, c'est un lieu qui me plaît beaucoup et où j'ai été beaucoup quand j'étais étudiante. Et quand on va à la Comédie Française pour rencontrer le service qui est dédié à l'habillement, c'est 56 personnes qui bossent, mais non-stop. Donc, enfin, tu vois, la Comédie Française, ils sont donc sous les toits. Et là, t'as modiste, chapelier, des blanchisseuses. Un atelier coiffure où en fait alors les perruques sont pas faites là parce qu'ils ont pas le temps de les faire mais où sont échafaudées les coiffes où on réfléchit en même temps avec le metteur en scène et la costumière des perruques qui vont être posées le soir même et tout ça c'est un gigantesque bal en fait c'est quasiment une pièce de théâtre en tant que telle parce que ils travaillent pendant que les comédiens répètent donc on entend les comédiens qui sont en train de répéter donc on entend les répliques quand on se promène à l'intérieur du service et à des moments clés tout d'un coup paf il y a je sais plus, la directrice de l'habillement, la régie de l'habillement, qui va descendre sur scène apporter tel costume. Et bon, quand on voit un spectacle, une grande pièce de théâtre, clairement, l'habit fait le moine. Il est essentiel à la réalisation de ce spectacle. C'est pas un détail. C'est beaucoup plus qu'un détail. Et de voir ces ateliers qui fonctionnent quasiment comme des ateliers haute couture, avec ce savoir-faire, cette expertise des gens qui viennent du monde entier. Alors, je sais pas si c'est le cas aux Français, mais en tout cas, enfin, chez Chanel, je l'avais vu quand on voit les maisons Le Sage, Le Marié, et des gens, des Japonais, des Allemands, enfin, des gens qui s'arrachent, quoi, pour avoir des places là-bas, apprendre ça. Moi, j'ai découvert une nana qui était fleuriste artificielle. Bon, ils sont une petite centaine en France, je pense. Et c'est magnifique de l'avoir travaillé. C'est très beau. Alors, oui, est-ce que ça peut pas... Moi, je me dis, est-ce que ça susciterait même pas des vocations pour des jeunes qui découvrent ça et qui ont une image peut-être un peu poussiéreuse ? Ah, l'artisanat, oh, pff, non. Non, en fait, c'est aussi des choses comme ça. Et c'est extrêmement créatif. Et on a besoin de ça. Donc, c'est un pari, mais moi, je pense que ça peut intéresser les gens. Et la fabrication aussi, quand on achète des vêtements, peut-être qu'on, et c'est un truc sur lequel je voudrais travailler aussi, mais peut-être qu'on comprend pas bien le prix, souvent, des vêtements qu'on achète. Parce qu'aujourd'hui, on achète des vêtements à 1 €, enfin, un peu n'importe quoi, entre 1, et puis après, ça va chiffrer très vite à, on peut trouver des chemises à 400, enfin bon. Donc, le gap est énorme, en fait.
Expliquer ça, c'est important.
Voilà. Et pourquoi, en fait, il y a une telle différence? Alors, des fois, peut-être aussi, parce que les marges sont énormes et ça se justifie pas toujours. Mais peut-être que dans d'autres cas de figure, c'est aussi tout simplement parce qu'il y a un travail laborieux de fabrication. Et j'étais à Anti-Fashion cet été. à Marseille, tu vois.
Ouais, je vois très bien.
Et en fait, Stéphanie Calvino, donc, qui organise ça et que je trouve pleine de conviction et voilà, vraiment une fille passionnante, elle fait des ateliers comme ça où elle emmène des jeunes. Alors, en l'occurrence, je crois que c'est des jeunes qui venaient de quartier ici. Je me demande si c'était pas Seine-Saint-Denis, enfin, je sais plus. Où, en tout cas, elle emmène ces jeunes pour leur montrer, en fait, ils déstructurent des fringues pour comprendre le labeur, c'est vraiment du labeur, quoi, un travail à l'ancienne que représente la création d'un tel vêtement. Mmh. Et donc, du coup, alors après, c'est aussi, je pense, pour susciter des vocations, pareil, hein, pour des gens qui voudraient plus tard éventuellement devenir modiste ou styliste, mais qu'est-ce que ça représente, en fait, de créer un vêtement? Et peut-être que, du coup, au travers de ça, notre rapport au vêtement changerait. Mmh. Et surtout, on
ferait bouger les lignes de notre société, quoi.
Voilà, et puis, mmh, on jette tout. Moi, alors, c'est facile à dire, hein, pour moi, parce que je suis journaliste mode et que des fringues, on m'en a filé plein. Je le sais, j'en ai conscience. Hein. Mmh. Mais là, par exemple, en ce moment, je suis dans une grande détox dans mon armoire. Je veux plus acheter, je veux prendre soin de ce que j'ai. Je les range, je les trie, je les garde. Je peux plus en avoir plein comme ça partout.
Puis une certaine overdose, quoi.
Ah oui, non, mais je supporte plus. Rentrer dans une boutique, ça m'angoisse. Et malgré tout ça, je comprends bien les vertus d'un Zara, H&M ou Gap. Ah oui, bien sûr, c'est tentant, c'est pas cher. C'est... Voilà. Après, est-ce qu'on peut quand même tous se poser un peu la question de se dire, est-ce qu'un jean à 10 balles, parce que, donc, comment il a été fait, ce jean?
C'est pas viable.
Non.
Et d'après toi, c'est quoi ton rôle à toi de journaliste aujourd'hui? Tu parles, j'ai l'impression, de pédagogie. C'est hyper important pour toi.
Bah alors peut-être, tu vois, finalement, je suis pas devenue prof, mais ça me rattrape. T'as raison. Mmh. Ah, c'est bien, ça fait un peu une séance psy en même temps. Je suis contente. Mais écoute, je sais pas si c'est de la pédagogie. En tout cas, disons que j'aimerais pouvoir, là, sur des prochains sujets, proposer des choses qui ont peut-être pas encore été vues, ou alors essayer de rendre accessible. On parlait des défilés, justement. Bah tiens, est-ce qu'aujourd'hui, là, je voyais, alors en France, on le fait pas, mais la Fashion Week, alors, de Londres, elle va s'ouvrir pendant une journée au public. Voilà. Donc, je crois que tu payes ta place, un ticket, et tu peux voir six créateurs. Donc, typiquement, je trouve que ce genre d'initiative, je la trouve très intéressante parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, même si le milieu reste élitiste, etc., fermé, on a de plus en plus un accès direct à ce qui se fait. Donc, on voit tout de suite, ça s'est fait via les Instagrammeuses notamment, qui via leur communauté relaye, etc. Mais voilà, ouvrir comme des coulisses, en fait, quand t'es journaliste, t'arrives avec ta petite caméra et comme toi, tu viens chez les gens avec ton micro, tu rentres en fait dans une intimité, dans un endroit auquel toi, tu as accès. Et tu vas le montrer au plus grand nombre, parce que bon, t'as ce support, en l'occurrence, à la télé, donc tu vas le montrer. Et du coup, tu peux défendre un point de vue à ce moment-là. Tu peux décider dans ces coulisses-là. Je te parlais, tu vois, de la Comédie Française. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer cette fabrication. Donc, de mettre à l'honneur ces femmes qui fabriquent tous ces costumes et dont on n'a pas conscience. Donc, un peu comme ouvrir des portes un peu secrètes auxquelles tu as accès en tant que journaliste et tu vas pouvoir les montrer. Donc après, évidemment, c'est compliqué, hein, la recherche de la nouveauté. On demande toujours, c'est le grand truc, ah, alors c'est quoi l'actu, puis c'est quoi le truc nouveau, il faut, bah oui, nouveau. Alors ouais, on a la néo-bourgeoise, la néo-hippie, la néo...
Il y a encore des trucs nouveaux.
Voilà, tu vois, en fait, j'ai l'impression que c'est très dur de trouver des trucs nouveaux parce qu'en tant que tel, il n'y en a pas. Mais un point de vue nouveau, oui. Ça, c'est possible. C'est dans la façon de le traiter. Tu peux apporter un regard, tu peux apporter une patte, tu peux apporter une nouveauté. Après, dire qu'il y a des trucs nouveaux, forcément, il y en a. On voit quand on parlait de Jacquemus, bah, quand on voit ses créations, elles sont très différentes de ce qui a été proposé auparavant. Dans ce côté très solaire, la Provence et tout ça. Bon, bah, ça, donc oui, il y a une forme de nouveauté. Après, moi, j'ai interviewé Lacroix récemment. Bon, bah, lui aussi, il avait mis la Provence à l'ordre du jour, mais c'était très différent. C'était très baroque, très rococo. Jacquemus, il a une esthétique plus épurée. Donc, on était dans quelque chose qui n'avait rien à voir. Moi, je pense que les gens qui font des choses nouvelles sont aussi des gens qui se sont énormément inspirés du passé. Et c'est bien.
Oui, mais c'est l'éternel, enfin, c'est l'histoire de l'art, quoi.
Voilà, et c'est pas grave de. Au contraire, moi j'ai l'impression d'avancer au travers des références passées. Et ça me donne un éclairage. Donc après, bon, moi je suis pas créatrice, donc j'ai pas pour vocation d'inventer quelque chose. Il faudrait que le but du journaliste est d'aller débusquer cette nouveauté. Mais en tout cas, si on estime que c'est pas totalement nouveau, on peut apporter un éclairage nouveau sur le sujet.
Alors ça, c'était ton rôle, mais d'après toi, le rôle de la mode aujourd'hui, c'est quoi son rôle aujourd'hui et qu'est-ce qu'il devrait être d'après toi?
Alors, ce qui devrait être, je sais pas, mais ce qu'il fait, et ce qu'il fait plutôt bien, et ce qu'il va continuer à faire, c'est raconter des histoires. Moi, j'ai l'impression que la mode, elle raconte des histoires. Et d'ailleurs, beaucoup de marques aujourd'hui se différencient et se distinguent en racontant des histoires. Alors, il s'agit pas d'enfumer les gens avec des histoires à dormir debout, mais des histoires, on parlait de la fabrication, donc des histoires de transparence, de créer une communauté avec une cohérence visuelle. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'ai la chance de travailler à côté des fois avec des créateurs. On a parlé de La Croix, j'ai fait avec Chantal Thomas aussi, qui vont faire des collabs, des trucs, et qui me demandent de réaliser derrière ça, ou un film, ou une petite vidéo. Et du coup, ce que je trouve intéressant dans ces moments-là, c'est que tout d'un coup, ça oblige chacun, et la marque et le créateur, à se poser un certain nombre de questions, à arriver chacun avec son bagage. Bon, quand c'est des gens qui ont des univers forts, c'est d'autant plus intéressant parce que du coup, c'est une plongée dans ce qu'ils ont fait précédemment, il y a une introspection, il y a une réflexion, à essayer de réfléchir donc à cette cohérence visuelle, à raconter une histoire, à amener les gens pour que tout d'un coup, ils se disent « Tiens, bah, quand j'achète ça, c'est quand même... les marques font tout. Enfin, je veux dire, on peut trouver tout, n'importe quoi, n'importe où. On va aujourd'hui sur Amazon, on trouve absolument tout. » Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, on va aller vers une marque en particulier? C'est bien parce qu'elle nous embarque dans un truc, et pour se différencier aussi. Parce que tout d'un coup, en achetant telle ou telle chose, parce qu'on ne croit à l'histoire de cette marque, qu'on l'apprécie, qu'on la comprend, qu'elle nous parle, et j'ai l'impression que les jeunes sont encore plus sensibles à ça, qu'elle véhicule un discours qui nous est cher, eh bien, à ce moment-là, la mode prend toute son ampleur, et puis peut-être que elle devient tout d'un coup un truc assez fascinant, parce que c'est pas juste un habit, c'est pas juste il faut être dans l'air du temps, il faut se vêtir un peu comme tout à chacun, c'est aussi une façon de se distinguer, c'est aussi une façon d'affirmer un message très clair. Alors, est-ce qu'on a envie de suivre aussi des courants quand on parle de mode? Donc on est influencé par tout ce qu'on voit, par les dernières tendances, mais à un moment donné, on a envie de se démarquer. Et donc le rôle de la mode, en tout cas de certaines maisons, et il y en a qui émergent et qui le font très bien, c'est de proposer, de raconter cette histoire pour que les gens qui y aillent intègrent ce message et véhiculent eux aussi peut-être les mêmes valeurs. Donc je trouve qu'à ce titre-là, la mode est intéressante. Et puis c'est aussi un énorme laboratoire, en fait. Moi, j'ai l'impression que il y a beaucoup de choses qui sont très créatives. Quand on voit la haute couture, bon, qui sont des spectacles vraiment fascinants, bah c'est un laboratoire culturel aussi. Hein.
T'as pas l'air blasé, en fait. J'ai l'impression que t'es encore.
Ah bah écoute, tant mieux, parce ouais, que je
t'as
pourrais.
T'as vu tellement de choses et tu pourrais être hyper blasé, en fait.
Non, pas trop, parce que.
T'as encore frais.
Ouais, j'essaye, et puis il y a plein de choses que j'ai pas encore vues, donc je me réjouis d'avance de les voir. Et surtout, j'ai rencontré. Alors, tu vois, souvent on colle cette étiquette ou cette image de marque du superficiel à la mode. C'est très faux. Moi, j'ai eu l'impression de rencontrer des gens passionnants qui s'intéressaient
ouais,
à la mode.
Terre à terre, ouais.
Voilà.
Moi aussi. Hein.
Tu vois, écoute, récemment, bah, pareil, j'étais pour le boulot à l'IFM. Et j'ai rencontré un prof là-bas, normalien, mec super, Benjamin Simenauer, tu vois, donc très mec très intéressant. Et en fait, on a échangé sur l'art et la mode. Voilà. Aujourd'hui, t'as plein de marques qui exposent, ouais. Voilà, qui exposent, ou alors même carrément qui impriment. Notamment dans le streetwear, ça se fait beaucoup. Les Off-White, Supreme aussi, leur logo, il était inspiré d'une artiste. Enfin bon, bref, beaucoup de gens, je crois que dans les boutiques Céline aussi, ils exposent quasiment des photos d'artistes. Et donc, on réfléchissait ensemble, je disais, ah bah, ça serait intéressant de voir en rétrospective. Donc, on pensait à Saint-Laurent, Schiaparelli. Donc, on sait, bon, eux, directement été inspirés de courants artistiques ou de peintres. Et il m'a sorti une revue, mais j'étais scotchée, de Mallarmé, qui date donc du 19e siècle. Et Mallarmé était un passionné de mode. Mallarmé, c'est un poète opaque, obscur, difficile, qui fait pas le bonheur des lycéens aujourd'hui, mais qui fait donc partie évidemment du patrimoine culturel français, qui est un immense poète. Et Mallarmé parle de mode et raconte les collections. Alors, il signe avec des pseudos féminins. Et je pense que c'était une façon de se faire passer pour journaliste. En plus, c'est bizarre. Tu produis une revue, t'écris tous les papiers, c'est pas très crédible. Donc voilà, ici une seule. Et je me dis, c'est quand même incroyable de voir que dans cet univers fait de taffetas, de broderies, de perles. Enfin, on imagine les tenues des dames à l'époque. On a l'impression d'être dans une plongée dans Bonheur des dames. Et bien lui, il raconte ça avec son œil très littéraire. Chaque adjectif est extrêmement bien choisi. Bon, et ben quand je lis ça, j'ai l'impression de lire vraiment une création littéraire. Et je me dis, on est dans tout sauf dans du superficiel. Et il explique aussi ce qu'est la mode, comme tu me parlais du rôle qu'elle a à jouer, du marqueur social qu'elle représente, de l'habit qui fait le moine. Enfin, donc non, je me dis qu'en fait, il y a beaucoup plus de choses à découvrir quand on parle de mode qu'on ne le pense. Et il n'y a pas juste... j'aime les fringues, j'aime pas les fringues. Voilà. Pourtant, après, je passe pas du tout mon temps dans les boutiques, hein, mais clairement pas.
En plus, tu fais une overdose de vêtements. Mais
ouais, je fais une overdose de vêtements.
Mais t'aimes encore la mode.
Ouais.
On va revenir un peu à ton parcours parce que on a fait un grand détour.
Ouais, je suis désolée. Hein,
c'est pas grave.
J'ai l'esprit en escalier. Hein, ouais, c'est pas bon.
C'est très bien. Quand t'arrives au maternel, donc là, tu passes de la presse au papier,
à la télé.
La télé, quoi. Comment on se prépare à ça, à sauter dans le grand bain de la télé? Quand tu parles comme ça, t'as l'air hyper à l'aise, etc. Mais à l'époque, bon, t'avais, je sais pas, 25 ans, t'étais toute...
j'étais jeune. Alors, j'ai eu de la chance de faire de la pub quand j'étais plus jeune. Donc, je pense, et j'ai fait du théâtre aussi. Alors, je pense que j'ai oublié. Enfin bon, après c'est long, mais en parallèle de ma maîtrise de lettres, j'ai fait un conservatoire de théâtre et ça me plaisait beaucoup. Les textes, les mots. Je pense que on était pareil dans ce même esprit. Du coup, je pense que ça m'a beaucoup aidé pour la télé, clairement. Maintenant, oui, tu deviens après de plus en plus à l'aise. Je peux très bien ne plus l'être aussi dès que tu sors de ta zone de confort. Mais comme pour toi, on se familiarise avec un exercice, en fait, je trouve, assez vite. Et puis après, tu rencontres aussi des gens.
Il faut être théâtral dans la télé?
Alors, pas forcément. C'est presque même un défaut, je dirais, parce que j'ai l'impression que la télé, c'est le quotidien. La télé, tu parles à des gens, t'es dans leur salon, quoi. Ils sont en train de manger, ils sont en train de faire un tas de choses, de faire du ménage, du repassage, que sais-je. On n'est pas, les gens viennent pas voir comme dans un spectacle où ils ont une oreille totalement attentive. Donc il faut capter leur attention, mais tout en étant le plus naturel possible et puis en racontant des choses. On est dans quelque chose de très quotidien. On n'est pas comme sur une scène où voilà, on déclame. Donc je pense que c'est un phrasé qui est très différent. Moi, j'ai eu de la chance aussi de tomber. Alors, pas que, hein, évidemment, j'ai eu comme tout le monde des gens plus ou moins sympas, mais j'ai travaillé avec des gens hyper sympathiques aussi. Donc, je pense que ça t'aide beaucoup.
Qui te mettent à l'aise et qui sont bienveillants.
Qui te mettent à l'aise. À l'époque où j'ai bossé pour TF1, le matin, on faisait une émission. Ça s'appelait 10h le Mac. Bon, c'est tellement marré que ça a duré qu'un an et demi. Mais l'animatrice, c'était Sandrine Quétier, qui était une nana hyper bienveillante. C'est peut-être... qui était extraordinaire, qui était d'une gentillesse absolue. Donc, c'était mes premiers directs, donc forcément j'avais un énorme coup de stress à ce moment-là, surtout que le premier direct, c'était mon premier direct, donc j'avais mis une pression dingue sur ce truc. Je venais de quitter France 5 pour arriver sur TF1, j'étais hyper contente, et là je prends le métro et il y a un mec qui a la mauvaise idée de bloquer les rails à un moment, donc je vais être en retard, quoi, clairement, donc obligée d'appeler la prod, un mototaxi, enfin je suis arrivée, j'étais en nage, j'avais même pas eu le temps de passer par la case maquillage, donc transpirante. Et voilà, et on se fait des gros coups de frayeur comme ça, et je pense qu'on essuie les pots cassés, enfin des plats, et c'est pas très grave parce que ce n'est que de la télé aussi. Donc moi, je me suis jamais mis une énorme pression non plus, parce que voilà, on n'opère pas à cœur ouvert, et que je trouve que ça reste facile quand même. On se plante, et ben c'est pas grave, on reprend, puis on refait un petit intermède musical. Enfin voilà, peut-être parce que j'y mets pas une pression de dingue non plus. Et après, en ce qui concerne de faire des sujets, parce que je distinguerais vraiment, il y a plein de métiers en télé, hein, mais quand t'es journaliste en télé, il y a les gens qui font de l'antenne, et beaucoup de journalistes ne font pas d'antenne, et n'ont pas du tout envie de faire de l'antenne, d'ailleurs, ils n'aiment pas ça. Et du coup, moi, c'est une partie qui m'intéresse énormément, et sur laquelle j'ai pas mal travaillé, et sur laquelle je veux travailler de plus en plus, d'ailleurs, c'est de la fabrication des sujets. Donc ça, c'est autre chose. Parce que là, du coup, on n'est pas du tout... quand on a l'antenne, on est parasité par l'image qu'on veut envoyer, la façon dont on se présente, etc. Quand on fait un sujet, c'est pas ça le thème. Le thème, c'est vraiment de raconter une histoire. Et le sujet est de montrer un point de vue. Et là, par exemple, l'écriture, elle est très différente de celle de la presse écrite. Donc là, j'ai eu un vrai apprentissage à faire. Et en mode, c'est presque encore plus prégnant, je trouve. C'est pas du tout la même écriture. On te dit, c'est une journaliste qui m'avait dit ça une fois d'ailleurs, et je trouvais que c'était pas mal, il faut apprendre à désécrire, à écrire comme un mouton à cinq pattes. Quand t'écris en télé, que tu fais du com, par exemple, ce qu'on appelle les commentaires, des phrases de relance, etc., contrairement à un papier qui va être très léché, très travaillé, où chaque mot est pesé, on se relit beaucoup, Là, il faut garder en tête le côté très vivant de la situation. Et donc, ça doit rester très oral. Mmh. Et surtout, on peut aussi décider de faire des choses sans commentaire. Donc, il faut que les interviews s'enchaînent bien. Il faut apprendre... Ça, c'est l'art du montage, hein, qui est passionnant, vraiment. Moi, c'est presque ce qui m'intéresse le plus en ce moment.
Toi, tu fais du montage?
Oui, alors, je travaille avec une monteuse, enfin, des monteurs, hein, ouais. Que ça soit en interne chez France Télé ou après, j'ai une monteuse géniale aussi avec qui je travaille en extérieur. Mais c'est hyper intéressant parce que le montage... Tout se fait. Tu peux faire dire tout et n'importe quoi à des gens, des effets de montage. Voilà, toi, t'as fait des très belles interviews de Loïc Prigent. Moi, j'ai eu la chance aussi de bosser avec lui. Mmh. Et ben, c'est de l'art du montage.
Ce qu'il disait, ouais, c'est montage trahison. Non, je sais plus ce qu'il disait. Il avait sorti une phrase comme ça. Ça me fait penser à ça.
Voilà, c'est...
Ouais, non, c'était genre, ouais. Monter, c'est choisir, montage trahison, un truc comme ça.
Ouais, ouais, bah c'est exact.
Que tu fais dire tout et n'importe quoi.
Ah, bah tu peux faire dire tout et n'importe quoi, tu peux avec des effets de style. Moi, j'aime beaucoup cet exercice et je l'ai un peu appris à son contact aussi, mais quand on interviewe des gens, de prendre. Tu fais un micro-trottoir où tu prends la température, donc c'est interviewer une série de gens autour d'une question, donc poser une seule question, puis tu ressors un adjectif à chaque fois qui va tout d'un coup résonner de façon. Alors que l'adjectif, il est dans une grande phrase, donc si on mettait toute la phrase, bah ça n'a pas du tout. C'est beaucoup moins percutant que de prendre qu'un mot. Tu peux tout faire. Tu peux faire dire. Alors après, il faut effectivement pas que les gens. Et lui, il le fait très habilement. C'est-à-dire qu'il est gentiment ironique. Évidemment qu'on rit des gens qu'on voit, mais on rit aussi avec eux. Donc on a aussi beaucoup de sympathie parce que ça c'est vraiment l'art du montage. Mmh. Alors après, l'interview est importante, le moment passé pendant le tournage. Mais moi j'ai l'impression. Quand un tournage foire, et ça nous est tous arrivé pour des raisons.
Qu'est-ce qui foire?
Bah des fois, par exemple, on a un très mauvais intervenant, quelqu'un qui n'est pas du tout à l'aise pour s'exprimer, qui n'aime pas
il
ça.
Arrive pas, ouais.
Voilà, il n'arrive pas. Moi, ça m'est arrivé. Hein. C'est très difficile. Puis surtout, on a l'impression de torturer la personne en fait. Donc c'est très désagréable parce que bah moi, j'aime pas ça. Moi, j'ai envie que les gens soient contents. Je sais pas toi comment tu ressens ça, mais quand tu poses des questions à des gens, t'as envie qu'ils soient contents d'être là, quoi.
Ouais, t'as envie qu'ils aient passé un bon moment, c'est clair.
Voilà, donc autant exact. Exactement. Donc moi je me dis ça, et puis quand je vois qu'en face de moi j'ai quelqu'un qui fait des grimaces, qui veut, alors encore une fois, moi je suis pas en direct, donc on peut reprendre hein, quand on fait des sujets et tout, mais je trouve ça toujours bien le premier jet, parce
c'est
que
meilleur, c'est sûr.
Voilà, et puis pour le coup on n'est pas au théâtre, donc c'est des gens qui sont pas habiles pour répéter, donc c'est toujours moins bien fait, donc voilà, c'est la spontanéité,
tu
mieux
redis la même chose mais mieux,
voilà, dis-le moi en plus court aussi s'il te plaît, donc là on perd ses moyens, donc c'est, puis ils ont une caméra braquée sur eux, donc voilà, c'est pas évident. Et bien donc dans des tournages difficiles comme ça, et ben avec un bon monteur, on arrive à rattraper le coup, parce que voilà, moi ça m'est arrivé de rendre des gens qui étaient pas hyper sympathiques très sympathiques, de faire l'inverse aussi parce que je les avais vraiment trouvés insupportables, de jouer le côté gentiment encore une fois, mais parce qu'ils se la racontaient un peu trop, de le montrer. On peut exagérer tout ça en montage, donc on peut vraiment transformer. Et après, encore une fois, il faut aussi avoir un propos. Il faut que le journaliste ait aussi une ligne, et en fonction de ce que tu vas dire, ben du coup, t'adaptes ton montage aussi, quoi. Tu fais une progression, donc ça va pas être forcément monté dans l'ordre du tournage. Mmh. Tu vas des questions qui sont arrivées à la fin vont arriver au début, et du coup, en fait, on voit quelqu'un qui est beaucoup plus à l'aise déjà parce que c'était à la fin du tournage, donc il est plus aguerri à l'exercice.
Et comment tu mets à l'aise les gens?
Alors ça dépend. Écoute, moi-même, je suis assez cyclotimique, c'est pas bien de dire ça, mais oui, un peu. Tu sais, voilà, je change d'humeur des fois.
Bien, ouais.
Ouais, c'est pas bien. Donc j'essaye de rester positive et de bonne humeur, mais en fait, je compose moi aussi avec ce que je suis. Donc évidemment, t'arrives pas avec tes problèmes en étant énervé le jour d'un tournage. T'essayes de mettre les gens le plus à l'aise. Donc tu essaies d'être sympa, de faire une petite blague. Moi, je donne pas les questions à l'avance, comme toi d'ailleurs, tu as bien raison. Mais parce qu'en fait, c'est ce que je leur dis. Je veux que l'échange reste spontané. Donc j'ai pas envie de qu'ils aient réfléchi pendant trop longtemps. Surtout quand c'est des marques, je suis toujours embêtée parce que, alors, je défends moi-même les marques en expliquant qu'ils ont un univers fort souvent et qu'il y a des choses intéressantes à raconter. Après, je veux pas trop qu'ils m'en fument avec un bullshit non plus. C'est-à-dire que quand t'as des gens qui arrivent avec t'as un directeur marketing, voilà, et le mec arrive et il te déroule son truc, ta 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 ta. Je suis un peu ennuyée parce que
ouais,
bon,
on perd tout, ouais.
Voilà, donc là ça fonctionne pas. si après, quand c'est une petite marque, voilà, au contraire, qui est avec ses valeurs, c'est tout, faut, je, moi, je pars du principe, c'est pour ça que je ne vais pas y donner les questions. Vous l'avez créé, donc vous savez de quoi vous parlez.
Oui.
Vous avez, donc, ce n'est pas la peine d'aller piocher dans je ne sais pas quoi.
Oui, de tergiverser, de trop penser.
Voilà, donc je ne veux pas qu'on tergiverse trop, donc c'est ce que je leur explique. Et tout en les rassurant toujours, en disant, de toute façon, il y a le montage. C'est là où ils comprennent aussi que le montage, ça peut aussi être en leur défaveur. Oui. Mais de leur dire, voilà, quels sont les enjeux. Encore une fois, moi, c'est pareil, je suis comme toi, je suis pas là pour débusquer des scandales non plus, donc c'est plutôt bienveillant, a priori. Oui. Moi, je trouve bien aussi, des fois, d'aborder des sujets un peu polémiques. On parlait de mode de d'écolo, on peut parler de greenwashing, tout ça. Les marques sont mal à l'aise souvent des fois, enfin voilà, donc bah oui, mais je pose quand même la question. Alors après des
fois, mais c'est ton rôle de journaliste aussi.
Exactement. Donc après, ah mais est-ce que ça, on va vraiment en parler? Bah ouais, parlons-en, vous me dites ce que vous voulez bien me dire de toute façon. Donc mais je trouve que c'est voilà, je veux vraiment garder ce côté spontané pour les mettre le plus à l'aise possible, et puis voilà, sans les faire flipper, sachant que c'est des sujets courts, hein. En plus, c'est des sujets, on a très peu de temps, on a 2 minutes 45.
Et ça prend combien de temps en général de tournage ?
Écoute, alors ça dépend, encore une fois, c'est pareil, c'est que ça dépend des intervenants, hein, quand t'as des gens très à l'aise, des fois. Moi, je veux pas arriver, je me suis mis une règle à moi, très claire, pour pas galérer en montage, je veux pas arriver avec plus de 2 heures de rush en tout. Parce que sinon, tu deviens dingue. Donc en fait, la première partie, pour parler technique et création de sujet, elle consiste à dérusher. Donc là, tu vas prendre quand même pas mal de temps. Et du coup, je veux que l'interview soit courte et concise, hein, parce que sinon, le sujet... Puis en plus, c'est dommage, parce que j'ai l'impression de jeter des choses qui m'intéressaient après. C'est choisir, c'est renoncer. Et donc, tu vois, à des moments donné, je me dis, mais c'est vachement intéressant, mais on sort du cadre. Bon, tant pis, bah, ça fera un autre sujet, c'est pas grave. Donc ça me donne des idées aussi pour après. Et en fait, après, le reste, c'est de l'illustration. Et des fois, moi, j'aime beaucoup, beaucoup travailler avec des images d'archives. Et on a cette chance chez France Télé, parce que moi j'ai accès à l'INA, à tout ça, tu vois. Donc ça, c'est vraiment génial, surtout en mode. C'est fabuleux de voir des défilés des années 60. L'autre fois, j'ai récupéré des images de la piscine Molitor, là, dans les années... juste après-guerre, 46, j'avais fait un défilé de maillot de bain. Enfin, tu vois, des trucs, bon, c'est assez génial. Et du coup, je veux passer aussi du temps sur mes images d'archives. Donc si j'arrive avec 3000 rushs, c'est... Non, j'essaye de travailler vite, quoi, pour...
T'as combien de temps pour faire un sujet ?
J'ai une journée de tournage, une journée de montage et une journée de prépa. Mmh. La prépa, je l'organise comme je veux. Après la prépa, c'est-à-dire que t'es chez toi, t'envoies des mails, tu prends des contacts, tu cales. Souvent, c'est des histoires de calage. Quand c'est des créateurs, là, j'ai fait des portraits, une série de portraits de créateurs cet été. Bah, c'est souvent des gens qui ont des emplois du temps un peu compliqués. Donc, en fait, la majeure partie du temps, elle consiste à caler, en fait, le créateur. C'est pas très, tu vois, c'est pas très marrant parce que c'est, j'ai l'impression plutôt de faire du secrétariat qu'autre chose. Mais en fait, parce que il faut bien, ouais, voilà. Et puis eux-mêmes, ils ont des emplois du temps, des trucs. Là, il y a la Fashion Week qui approche. Donc, tu vois, c'est pareil. Voilà. Donc, il faut composer avec tout ça. Et après, le tournage, c'est une journée. Et, bon, si t'as un déplacement, éventuellement un peu plus, mais. Vraiment, c'est pour un sujet de cette taille-là, ça me paraît difficile de justifier 2 jours, quoi. J'aurais pas objectivement besoin. Après, ce qui est con, c'est que des fois, si on pense Fashion Week, des fois, tu peux avoir des événements qui iraient très bien ensemble, mais qui sont à des dates différentes, et tu vois.
Il faut sortir ton sujet, quoi.
Voilà.
Et les sujets, donc tu les proposes au producteur, non?
Ouais, exactement. C'est producteur et rédacteur en chef. D'accord. Ouais.
Et ils les acceptent ou pas? Et toi, t'es indépendante ou t'es salariée?
Alors moi, je suis indépendante. Ouais, et voilà, ça me va très bien.
Très bien,
ouais. Oui, j'ai toujours bossé en. Écoute, je crois que de toute ma vie, j'ai eu un CDI. Je ne crois pas. Ça me va très bien en fait, comme ça. Mais oui, je suis alors avec les risques hein, que ça comporte, mais encore une fois, c'est ce que je dis aussi toujours, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, quoi. C'est moi, j'aime bien travailler en indépendant parce que je fais aussi des choses à côté, je réalise du contenu pour des créateurs.
Alors, vas-y, qu'est-ce que tu fais d'autre?
Et du coup, donc ça me va très bien. Bah là, par exemple, j'ai travaillé donc avec Chantal Thomas, que je t'ai dit, et là, je travaille sur du contenu avec Christian Lacroix, voilà, qui sort une collection capsule. Alors, elle sera présentée à la presse, oui, mais on peut en parler. Elle sera présentée à la presse le 19 septembre. Et c'est avec une grande marque française de prêt-à-porter, très connue sous le slogan « Moi, froid, jamais ». Tu vois ce que c'est? Voilà. Donc, c'est drôle parce que c'est deux univers, a priori, qui n'ont absolument rien à voir, quoi. Mais voilà, donc, j'ai Christian, je l'ai présenté, et puis surtout après il m'a demandé de faire une vidéo en fait pour raconter cette collaboration. Et voilà, ça c'est quelque chose que je trouvais super intéressant parce que lui il a, bah lui déjà c'est un personnage fascinant, donc il a, c'est un puits de culture, donc moi qui aime la littérature, si tu veux, là j'étais servie. Mais surtout il a un univers qui lui est très propre et puis une histoire qui me plaît beaucoup. Déjà c'est un mec d'une grande humilité, ce qui est pas toujours évident dans un milieu avec des gens qui ont, surtout quand on parle des DA, des maisons qui ont des égos quand même, c'est incroyable. Et bien lui, pareil, il y a un côté, il est, voilà, on a l'impression qu'il est arrivé un peu là par accident, il se cherche et en même temps il fait des choses assez incroyables, exceptionnelles. Donc il m'a beaucoup parlé de sa maison de couture, donc on a vachement réfléchi aussi là-dessus. Puis je trouve ça intéressant de voir qu'il y a une vie après la mode, après, enfin c'est pas après la mode, mais quand on a créé une marque et qu'on la perd, comme c'est arrivé à plein de créateurs, et peut-être encore plus quand c'est ton propre nom, en fait.
C'est une violence rare.
Voilà, c'est d'une violence rare. Et en même temps, c'est des gens qui se réinventent extrêmement bien. C'est-à-dire que lui, il est dans un message extrêmement positif. Il parle de la chance aussi qu'il a eu après, parce que ça lui a permis de renouer avec le théâtre, qui est sa première passion, puisque lui, c'est un grand costumier de théâtre. Et... du coup, que ça, ces échecs, on l'intéresse si on en tire les conséquences, et que du coup, pour faire mieux la fois d'après. Et c'est quelqu'un qui vit aussi avec une forme de nostalgie, mais une belle nostalgie, parce qu'il parle beaucoup du passé. Donc, il dit qu'il a longtemps rêvé la vie et qu'aujourd'hui, il vit son rêve. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment des rencontres que je trouve très belles. Et puis là, c'est quelqu'un qui a un univers fort, donc on a plongé dans ses dessins, dans les arabesques. Donc moi par exemple, c'est donc des courts films, hein, comme du brain content. Donc pour réaliser ça, je vais aller chercher, il y a la recherche musicale qui est très importante. Moi là, j'étais partie sur une idée de musique arabo-andalouse. Donc en fait, c'est assez créatif. Et puis
et t'as une liberté de ton, d'esthétique
J'essaye de la garder, ouais. Après là ça se décide aussi avec le créateur, là en l'occurrence je parle de ça, mais j'ai fait aussi pas mal de choses autour du, c'est pareil, c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Bon là c'est une collab, donc c'est dans un cadre défini, mais où il s'agit bien évidemment de montrer les vêtements de la collaboration, mais ça repose beaucoup sur son univers à lui, donc je me dis autant comprendre bien son univers et travailler là-dessus. Après il y a des sujets un peu plus sociétaux, puisque ça aussi c'est quelque chose qui m'intéresse, de body positive, où j'ai travaillé pour une marque de lingerie, et l'idée c'était de mettre en avant des femmes plutôt fortes, qui pendant longtemps potentiellement ont pu avoir des complexes ou voilà. Alors ça c'était, en plus c'était assez drôle parce que c'est avec des Belges que j'ai fait ça, et du coup c'est une journée qui a lieu en Hollande, donc j'ai un peu renoué aussi avec mon histoire, qui s'appelle la journée des compliments. Donc c'est une journée qui existe dans les pays anglo-saxons, ça existe, je sais pas, en France, jamais, la journée du sourire, des trucs, bon bref, encore un bon élément marketing, mais c'est une journée qui existe. Et donc l'idée c'était de réunir un casting de femmes, voilà, que j'ai fait dans un ton très épuré, puisqu'on était dans du noir et blanc, donc avec un parti pris de réal assez fort. C'est que ces femmes arrivaient dans un studio, et là la marque m'a laissé carte blanche, donc ça c'était vraiment bien. Donc j'ai fait mon casting, j'ai choisi ces quatre femmes, qui ont toutes des physiques, voilà, très différentes les unes des autres, mais chacune avec sa particularité. Elles arrivent et en fait, elles savent qu'elles vont être interviewées, mais bon, elles avancent, paf, elles s'assoient, donc studio blanc, il y a rien, et je leur demande à ce moment-là, donc moi je suis derrière avec mon petit casque, d'enlever d'enlever un tissu qui est devant elles. Donc elles supposent à ce moment-là que c'est la caméra, puisqu'elles savent qu'elles vont être filmées. Et en fait, on avait installé un miroir, et c'est un miroir sans teint, donc la caméra est derrière, et donc elle se voit. Et l'idée, c'était ça, c'était de renouer, de raconter ce qu'elle voyait, comment elle se percevait, donc de nous. Alors voilà, c'est sur des formats très très courts. Là, on est encore beaucoup plus court qu'en télé, puisqu'on va être sur des formats d'une minute, puisqu'après, ils les diffusent sur les réseaux sociaux. Donc forcément, tu prends des réactions à ce moment-là, parce que tu peux avoir que des réactions, des rires, des pleurs, des mots. Voilà, donc c'est très court, donc il faut vraiment, c'est émotionnel, mais.
Capté.
Voilà, et ça c'est quelque chose qui me plaît aussi beaucoup. Et puis c'est l'occasion de montrer des, ça se fait beaucoup maintenant, mais voilà, soit des femmes qui ont des peaux différentes, qui ont des couleurs différentes, qui ont des tailles différentes, qui ont des âges différents. Moi j'ai pas mal bossé depuis, ça je l'ai fait beaucoup avec France 2, mais avec des mannequins seniors. Voilà, Alors, où est-ce qu'on place le curseur? Parce que senior, aujourd'hui, c'est, tu peux démarrer à 50, mais tu peux aller beaucoup plus loin, 75, 80, même, enfin, il y a plus de limites. Et les marques de luxe le font très bien aussi aujourd'hui, parce que c'est des, pareil. Donc, on va raconter une histoire. Hein. Quand Céline, ils ont été chercher cette auteure, là, je sais plus, comment ça s'appelle, Joanne Didon, voilà, qui a une gueule.
Campagne photo de ouf.
Ouais. Voilà, campagne photo de ouf, qui a une gueule incroyable. Bon, on a envie de suivre beaucoup de marques aujourd'hui ont envie de faire ça. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'intéresse parce que du coup, en général, l'idée c'est qu'ils viennent me chercher parce qu'ils aiment bien ce que je fais. Mmh. Donc c'est que je garde mon univers et que je leur propose après avec cet univers-là.
Et comment tu définis ton univers aujourd'hui, toi?
Écoute,
question hyper dure.
Ouais, c'est super dur ta question parce que je sais même pas s'il est suffisamment bien défini. Écoute, c'est un univers assez. Je pense que j'ai gardé quand même ce côté de la presse féminine, surtout en ayant démarré au Marie Claire, qui était quand même un journal assez militant, féministe, mais très féminine. Donc j'aime bien, si tu veux, les messages féministes qu'on voit aujourd'hui, et je pense que ça a fait du bien. Bon, tu vois, toute la vague du MeToo et tout, en télé, on a soupé hein, des réflexions machistes, et je pense qu'il y a des choses aujourd'hui qui seraient absolument plus possibles que moi j'ai encore connues, et on en rigolait beaucoup à l'époque avec des nanas, quand on était recrutées, tu vois. Bon, bref, donc je me sens très en phase avec ce message-là. Et non seulement je le cautionne, mais je milite pour. Mais à côté de ça, j'aime aussi beaucoup cette idée. Je pense à ça parce qu'il y a le film avec Zaya là, qui sort, Une fille facile. Et j'aime cette idée d'une femme qui peut très bien à côté de ça être très sexuée, sexuelle, frivole, avoir mené les hommes à la baguette si elle l'entend, être je pense que c'est pas incompatible. Bon, de toute façon, l'image des féministes aujourd'hui, elle a beaucoup changé, mais si elle a envie aussi de se soumettre à un homme par le biais de l'argent, après tout, pourquoi pas? Enfin, ça me dérange pas. Ou qu'elle est très sophistiquée comme elle, on l'a accusée de ça, de ce côté. Bah oui, c'est une ancienne prostituée. Oui, alors ça l'empêche pas d'être féministe. Hein. Je vois pas en fait d'incompatibilité moi là-dedans. Même au contraire, après tout, elle faisait son fric comme ça, en demandant rien à personne, et puis elle a fait son ascenseur social. Donc elle était maligne aussi. Donc j'aime bien en fait concilier ces deux choses qui souvent. En tout cas, quand on parle du féminisme, comme on l'a vu au démarrage dans les années 70, voilà, il y avait un côté très revanchard vis-à-vis des mecs, moi, que je n'entends pas, qui n'est pas audible aujourd'hui. Très, très énervé, quoi, de la féministe en colère, en fait, hein, les chiennes de garde. Moi, je revoyais ça, là, l'autre fois, avec Chantal, justement, c'est Chantal Thomas, quand on a bossé ensemble, mais je revoyais le scandale qu'elle a créé quand elle était, tu sais, quand elle a exposé des femmes. Nue devant c'était les galeries, je sais plus où, la Samaritaine. Bon, j'ai un blanc. Bref, elle a mis des filles en vitrine, toutes nues, avec des jolies lingeries. Voilà, c'était un coup de pub, très bien, très judicieusement pensé d'ailleurs. Et les féministes étaient, les chiennes de garde étaient hyper énervées, alors que à cause de femmes objets, de tout. Ben non, aujourd'hui on pourrait très bien imaginer mettre un mec aussi comme ça en vitrine et ça serait drôle. Et ce féminisme-là me dérange parce qu'il manque d'humour. Et voilà, donc aujourd'hui j'aime bien essayer de concilier ces choses et je pense que ça peut très bien se faire et c'est pas incompatible quoi. On peut être féministe et porter un string et enfin en l'occurrence le string c'est vraiment moche mais porter de la dentelle, un truc très sexy et puis avoir envie de coucher avec qui on veut et ça n'empêche pas de passer un message féministe quoi. C'est pas du tout dérangeant en fait.
Très bien. Et le futur pour toi, là, comment tu l'imagines? C'est quoi les gros projets à venir?
Ah, alors le futur. Eh bien, le futur, j'ai peut-être envie de rejoindre mon mari, parce que je me suis mariée il y a peu, professionnellement. Donc, lui-même avait une marque. Mm-hmm. Il a créé une marque, ouais. Maison Standard, pour ne pas la citer. Et voilà, et aujourd'hui, ça s'arrête. Hein, donc, en tout cas, on réfléchit ensemble. C'est encore vraiment aux prémices, hein. Donc on est dans une phase plutôt de réflexion. Mais je pense que l'enseignement aussi de ça, c'est que quand on est justement une jeune marque, comme il a été, et qu'on a créé avec des valeurs fortes, avec une éthique, etc., et un message fort à faire valoir, eh bien, c'est difficile de s'associer avec... on a besoin, en fait, de financement. Et c'est un peu le problème aujourd'hui pour les entrepreneurs. Ils ont tous besoin de financement. Il faut bien aller chercher l'argent quelque part. Mais je pense que c'est très difficile de s'associer avec des fonds qui sont très gros et forcément qui ont aussi pour but de faire plus de profit. Voilà, donc on peut pas garder son indépendance comme ça et continuer à véhiculer ses valeurs. Donc ça, c'est difficile. Et les gens aujourd'hui qui sont des modèles assez inspirants, c'est des gens qui ont su rester indépendants. Donc, il faut faire des sacrifices pour le faire. Je pense que le chemin est beaucoup plus long et avec beaucoup plus d'embûches aussi. Mais essayer de faire quelque chose qui, en tout cas, idéologiquement, éthiquement, te corresponde et avec lequel tu sois pleinement en accord. Et donc, ça te permet de garder ta ligne et de voilà. Et donc, le message paraît vrai parce qu'il l'est fondamentalement. Et donc, du coup, tu peux continuer comme ça. Et moi, j'aimerais, voilà. Donc, c'est quelque chose tous les deux qu'on aimerait faire parce que on s'entend assez bien là-dessus et puis on a des valeurs similaires. Donc,
ce serait une marque de mode. Alors, une marque de mode.
Eh bien, pourquoi pas? Et pourquoi pas encore de la mode? On parle que de ça en fait, finalement.
Bah ouais, ça s'appelle entreprendre dans la mode. Donc,
voilà.
C'est le principe.
Ouais, ça tombe d'accord. Bien.
Et tu peux nous en dire un peu plus ou pour l'instant, non, ça reste très...
Écoute, je pense que ça serait bien que tu en discutes avec lui. Moi, j'aimerais le rejoindre. En fait, c'est son projet. Mmh. Et moi, j'aimerais le rejoindre dans ce projet parce que j'aimerais qu'on puisse en... Voilà, je sais pas si j'ai quelque chose à lui apporter. Lui, il dit que oui. Moi, je pense que certainement. Et puis peut-être qu'à deux, on serait aussi plus fort et que ce serait l'occasion. Alors, encore une fois, moi, là, pour l'instant, j'ai vraiment, je reste journaliste aussi. Donc, je peux pas m'engager comme ça dans une marque à temps plein. Et puis, j'aime mon métier. Donc, j'ai envie de continuer à faire ce que je fais, à produire de l'image, à réaliser. Donc c'est quelque chose voilà qui me plaît beaucoup, mais dans un futur proche peut-être que ça peut être disons que je me dis qu'à force d'avoir rencontré des entrepreneurs, d'avoir discuté avec des entrepreneurs et notamment dans ce milieu, pourquoi pas entreprendre soi-même. En tout cas, c'est un projet qui s'adresserait à des jeunes gens, voilà. Même si nous, on est plutôt jeunes, enfin voilà, la fraîche quarantaine. Hein, donc,
c'est l'âge d'or, non?
Ouais, c'est l'âge d'or. Écoute, si tu le dis, donc c'est, j'espère. Il paraît, oui, la presse féminine regorge de papiers comme ça. Hein, tiens, les 40, ah, c'est les 30 d'hier, etc. Bon, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais en tout cas, je trouve que dans cette jeune génération, il y a, moi, je vois plein de gens qu'on. Voilà, il suffit de surfer un peu sur les réseaux, mais qui ont des valeurs à défendre, un propos, qui s'intéressent à la mode, d'ailleurs, beaucoup aussi. Il y a plein de marques qui émergent comme ça, d'ailleurs, en ayant des jeunes qui accrochent. Et du coup, ouais, de choses faciles à porter, en même temps belles, mais qui... Bon, écoute, je pense que c'est mieux que ce soit lui qui t'en parle, en fait. Hein. J'ai l'impression, tu sais, de teaser mal, mais en tout cas, on...
Gros teasing.
Ouais, on réfléchit, tu sais, les vacances portent conseil, je crois.
Exactement.
C'est bien. Quoique les vacances, ouais, c'est aussi le fait de penser à rien, je pense qu'il faut même pas penser boulot, en fait. Quand tu décompresses complètement, tu penses à rien du tout, et bizarrement, tu reviens avec des bonnes idées. Donc, j'espère que mon petit séjour en Italie m'a permis d'arriver à maturation pour revenir avec vraiment les bonnes idées en septembre. On n'est pas encore tout à fait en septembre.
Ouais, on est là.
Voilà, tu vois, donc je me fixe ça comme objectif.
Ok. Est-ce que tu ferais quelque chose de différent? Enfin, est-ce que tu ferais quelque chose différemment dans tout ton parcours?
Ah, dans le parcours?
Ouais.
Ah oui, mon lycée. Hein. ah oui, parce que moi, je suis partie tôt de chez moi, donc j'étais en internat pendant 2 ans à la maison d'éducation de la Légion d'honneur, et après je suis partie parce que je n'en pouvais plus, et donc j'ai fait ma terminale au lycée La Fontaine. Et le fait de partir de l'internat entre la première et la terminale, c'était une très mauvaise idée, parce que du coup, quand t'as été bridée pendant des années dans un truc très strict, eh bien tu pars en toupie après. Non, mais blague à part, donc je me dis que c'était pas une très bonne idée l'excès de liberté est dangereux à cet âge-là. Sur le parcours, oh là là, j'ai envie de me dire oui, j'aurais dû être un peu plus studieuse et faire Sciences Po, hein, parce que c'est bien. Mais donc oui, des fois je regrette un peu parce que voilà, à cause de ce dossier merdique en terminale, parce que j'ai séché la moitié de l'année, donc du coup j'ai pas fait l'école que je voulais, donc j'étais à la fac. Donc voilà, c'est des vieux regrets comme ça, mais sans l'aide vraiment, parce qu'au final j'ai quand même trouvé ma voie, mais parce que quand voilà, jeune, je comprenais pas trop l'intérêt de travailler, j'étais donc oui, mais Je le vois plutôt comme une forme de boutade. En fait, je suis pas triste en me disant oh là là quand même. Quand je vois des gens qui ont fait des écoles que j'aurais voulu faire ou que je briguais à un moment donné et que finalement j'ai pas fait, je me dis pas oh là là c'est dommage. Mais oui, parce qu'après j'ai l'impression qu'on continue à se former tout au long de sa vie, donc c'est pas très grave. Écoute, non, j'ai pas de regrets en fait. Pour être tout à fait honnête. Donc, je pense bien que je change. Après, si, la même chose en mieux, sans doute. Mais comme nous tous, quoi. Non, tu ne dis pas ça?
Ah, mais si. Si, moi, je. Si, je voudrais la même chose en 10 fois mieux.
Ah, ouais. Bon, c'est dur, on est exigeant aussi avec nous-mêmes.
Bah, oui, je pense que oui. De toute façon, la plupart des gens que j'ai interviewés dans ce podcast, c'est des gens qui sont ambitieux, exigeants, qui sont hyper bosseurs. Donc il arrive un moment, ouais, c'est souvent des insatisfaits chroniques, quoi.
Oui, ah ben moi, c'est terrible. Moi, dès que j'ai un truc et je lutte maintenant contre ça, hein, privilège de l'âge. Oui. Dès que j'ai un truc et que je vois déjà ce qui, alors soit je vois déjà ce qui ne va pas, c'est terrible et puis c'est extrêmement pénible. Et puis surtout de cette incapacité à satisfaire, je vois déjà quelle va être l'étape d'après. Enfin, je me pose la question en tout cas. Ah ben ça c'est bien, mais what's next? Il faut lutter un peu contre ça, je pense que...
C'est vivre l'instant présent, carpe diem.
Ouais, mais c'est pas simple, hein, de vivre l'instant présent, hein, parce que présent, par définition, il passe trop vite, quoi. Donc, ouais, c'est dur.
Non, mais profiter des moments, voilà, comme ça.
Ouais. Très bon moment. Oui, et puis cette course, elle a... En tout cas, peut-être ne pas raisonner en termes de performance non plus tout le temps. Des fois, on fait des choses qui paraissent rien, et au final...
C'est énorme.
Ouais, c'est énorme. Et puis, tu vois, là, typiquement, avec ce format, ce que je trouve très, très chouette, c'est que t'as le temps. On a un gros problème avec le temps. Et à force de faire des trucs hyper rapides, hyper courts, on passe tout temps, à la trappe, quoi. Donc, prendre peut-être plus de temps, ouais.
Je te propose de prendre encore un peu de temps. Qu'est-ce que tu... des sujets dont on n'a pas parlé et que tu voudrais aborder?
Ah, quels sont les sujets dont on n'a pas parlé? Peut-être qu'on l'a quand même abordé, mais peut-être pas cette idée de, d'entreprendre aujourd'hui que je trouve, je pense à ça aussi quand je pense aux jeunes, justement, puisque voilà, bon, moi-même j'ai un ado et je vois bien la difficulté de trouver sa voie. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens, de jeunes gens, ont envie d'entreprendre, de créer, alors pas que dans la mode, hein, d'entreprendre, mais d'entreprendre d'une façon plus large. Et du coup, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est une grosse prise de risque quand on démarre ça jeune. Et en même temps, est-ce que c'est pas le moment où il faut le faire quand on est jeune, parce qu'on n'a rien à perdre et qu'il faut absolument se lancer et qu'on est moins frileux aussi que quand on est plus âgé. Et voilà, donc... En fait, la société entière elle-même change. Est-ce que le travail devient beaucoup plus flexible? On voit bien, on se déplace. Toi, t'es arrivé chez moi en vélo avec ton matériel. Enfin, je trouve ça assez extraordinaire, en fait. Donc, je suis plutôt très optimiste là-dessus. Souvent, on voit des gens, voilà, on tire tous la sonnette d'alarme. On a parlé d'écologie, des problèmes de fabrication, justement, etc. Et c'est vrai qu'il y a un énorme sujet là-dessus. Mais quand je vois la façon dont les gens se réinventent, comme l'humaine nature est faite, je me dis qu'on arrive quand même à trouver des parades assez incroyables. Et donc, qu'est-ce que ça va être entreprendre dans la mode dans 5, 10 ans? Là aussi, ça aura encore complètement changé. Est-ce que des modèles économiques qui sont viables aujourd'hui le seront encore? Quand j'étais aux Français, elle me disait à la Comédie Française que, par exemple, en fait, je lui disais, mais avant, tous les théâtres avaient des ateliers comme ça. Elle me dit oui. Et aujourd'hui, ces bureaux qui étaient destinés à la création de vêtements ont été remplacés par des bureaux de marketing et de communication. Eh bien, peut-être que ça, c'est un sujet. Peut-être que là-dessus aussi, les choses vont changer. Auriel, donc mon mari, lui, c'était un peu ce qu'il prônait aussi avec Maison Standard, avec un modèle différent, avec plus de transparence et puis un rapport très direct au client. Là, j'ai rencontré, quand j'étais anti-fashion, les mecs qui ont fait Veja. C'est pareil, c'est hyper intéressant comme modèle économique quand on y pense, en fait. Tout à l'heure, je voyais une gamine qui avait leur pompe dans la rue. Et ben, en fait, voilà, elle aussi, elle adhère complètement à ça. Il te parle des producteurs, du caoutchouc, du Brésil. Tout d'un coup, on remonte la chaîne, on est capable nous-mêmes de la tracer. Voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a une... On acquiert en fait en autonomie, on se libère aussi de ces contraintes. Alors après, financièrement, est-ce que ça va tenir longtemps? Mais Non, ça, je trouve que c'est des vraies pistes de réflexion. Les façons de communiquer, comment on va communiquer, en fait, demain. Ouais, ça m'intéresse, mais bon.
Écoute, et après toi, c'est comment on va communiquer demain?
Ben, je sais pas, je me pose la question, tu vois. Est-ce qu'on communiquera encore avec des micros, là, comme on le fait maintenant? Je suis pas sûre.
Je sais pas, des images.
Non, mais on est arrivé aussi à cette... On a une saturation d'images aussi. Quand... Non, là, en mode, je sais pas toi, mais tu sais, on regarde... Et... Moi, j'ai une fatigue visuelle quasiment qui arrive.
On peut plus regarder Instagram.
Bah, toi aussi, tu vois, ça te... Donc, c'est... Et du coup, la voix, c'est intéressant.
Oui.
Bah ouais, c'est très intéressant la voix parce que.
C'est pour ça que le podcast a tant le vent en poupe et ouais. Que les gens adorent ça parce que ça soulage l'œil. Ouais, c'est ça.
Ouais. Moi, quand j'étais gamine, quand j'étais petite, j'ai eu la chance d'avoir un père qui s'est beaucoup occupé de moi petite et qui me faisait qui m'enregistrait des cassettes de contes. Mais je pense que la majorité de mes références viennent de là. Et en fait, ça développe un imaginaire incroyable, incroyable. Parce qu'en plus, c'était bon. Je te parle de vieilles cassettes qui étaient, c'était des enregistrements de comédiens, avec des fables de La Fontaine exceptionnelles. C'était magnifique. Et du coup, j'ai l'impression que voilà, tout d'un coup, tu pars quoi. Et puis on imagine tellement de choses derrière une voix, c'est extraordinaire. Donc peut-être qu'on va revenir sur des choses un peu plus. Peut-être plus ancienne, les gens vont fabriquer aussi davantage.
Peut-être que la télé, ça va repartir.
Peut-être que la télé, ça va repartir, mais sans l'image alors. Hein.
Exactement.
Je vais dire ça à la direction, ouais. Ils vont adorer.
C'est clair. Et non, tu parlais d'un sujet qui m'est cher, c'est comment on parle de sustainability justement, comment on parle de développement durable, etc.
Ouais.
À une époque, alors encore plus aujourd'hui que jamais, puisqu'on sort du G7 avec l'histoire de la forêt amazonienne qui est en feu. C'est quand même un sujet dont tout le monde parle en permanence. Comment tu en parles aujourd'hui quand t'es une jeune marque ou une marque de mode, sans passer pour un opportuniste, en parlant bien de ce truc-là, avec authenticité, avec sincérité, etc.
Bah, il y a qu'une seule solution. Il faut vraiment être sincère, quoi, quand tu le fais, parce que on le voit bien, hein, le greenwashing. Ouais, beaucoup de marques en parlent, et puis on sent que tout d'un coup, bon, après, c'est pas forcément mauvais non plus, parce que ils ont des choses à se reprocher. Donc, du coup, ils s'achètent un peu une bonne conscience en faisant à côté de ça des opérations coup de poing qui font que on a l'impression que c'est bien. Quand on est une très très grosse marque, là, enfin, je pense notamment à tout ce qui est la high fashion, c'est difficile. Hein, parce qu'on sait très bien que
le modèle économique est pourri, quoi.
Bah oui, voilà. Donc après, tu peux toujours faire des coupons de réduction aux gens qui ramènent des fringues. De toute façon, c'est une façon de leur faire acheter des trucs. Bon, bref, c'est compliqué et c'est le serpent qui se mord la queue parce que c'est pas cher et que donc les gens ont envie d'acheter parce que c'est pas cher, etc. Donc là, c'est pour moi, là, il faut éduquer les consommateurs parce que c'est eux, ils vont pas changer. Les groupes sont trop gros et l'industrie est trop pourrie entre guillemets pour
ces
bouger.
Ils peuvent mourir pour.
Bah les groupes ils s'en foutent, donc enfin oui. ils sont c'est comme quand on est sur des voilà sur des choses très fortes comme des gros fonds d'investissement, enfin ils sont là pour faire du profit, donc c'est un message pas cohérent au bout d'un moment, c'est difficile. Néanmoins, il y a des belles initiatives et il y a quand même des gens qui dans tout ça émergent et arrivent à le faire et aussi à gagner du fric, j'en suis persuadée. Je pense pas que ça soit, c'est pas d'un côté, je vais pas soutenir le, même si j'aime beaucoup le personnage, le truc à la François Hollande, à mort les riches, là, où je sais plus, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'en fait, bon, voilà, quand on est, comme tu disais, une marque qui veut communiquer là-dessus, il faut qu'elle puisse le prouver, en fait. Il faut qu'elle puisse le montrer. Il faut qu'elle puisse... si vraiment, elle dit que cette fabrication, elle axe sa communication sur la transparence et que ça fait partie de la valeur principale qu'elle veut véhiculer, bah prouve-le. Montre-le. Montre-le. Donc, ça veut dire emmène des caméras dans tes usines... Et des caméras de journalistes, hein, pas que ta caméra à toi, emmène des personnes à la rencontre de ceux qui fabriquent les vêtements. Pourquoi pas? Explique comment a été fait telle ou telle fringue, explique pourquoi tu fais des collections, par exemple, qui sont moins souvent renouvelées. Avec un vestiaire plus intemporel, avec des basiques, explique pourquoi tu refuses de fabriquer dans tel ou tel endroit. Est-ce qu'aujourd'hui la fabrication, alors pareil, le Made in France était aussi un truc un peu fumeux, quoi, à un moment donné, parce que de toute façon il y a des choses qu'on ne peut pas fabriquer en France, donc c'est pas possible. Et fabriquer dans certains pays d'Europe, c'est pas grave non plus, c'est bien aussi. Il y a des endroits où on peut avoir, ou alors on a certaines marques ont ça, elles ont des usines qui sont par exemple en Tunisie, mais qui sont des usines qui leur appartiennent, donc en nom propre, donc du coup ça leur permet d'établir leur loi du travail sur place et de vérifier que ça se passe bien. Donc tout ça, et ben il faut le montrer peut-être davantage, et puis emmener les gens, emmener le consommateur, hein, se balader, peut-être faire une gigantesque tombola avec des consommateurs et puis des clients, et puis leur dire allez hop, hein, je t'emmène dans mon usine en Tunisie, ça va les faire fantasmer. Non, je pense qu'il faut vraiment le montrer, et que si c'est pas si c'est que du flan, et certaines marques sont tentées de le faire bien évidemment, et qu'en fait ils n'ont pas les moyens réels de le montrer, bah ça, au bout d'un moment ça va se savoir de toute façon. Enfin, ça va être surtout aujourd'hui, c'est vite débusqué. Donc je pense qu'on peut pas surfer trop longtemps sur un truc qui est faux. Je pense que ça peut marcher. C'est comme voilà, ce qu'on disait en télé sur le fait ou d'être à l'aise ou de voilà, des fois des gens qui sont comme ça extrêmement sympathiques. Je pensais à ça quand ça m'est arrivé une fois de faire des interviews, par exemple, d'Américains quand on fait les fameuses junkets. Et donc, eux, ils sont hyper pros, les gars, dans l'exercice, quoi. Ils ont 5 minutes, ils ont l'anecdote qui va bien. Mais malgré tout, même là-dedans, dans ce côté très fake, puisque c'est très joué, on perçoit quand même les gens, je trouve. J'ai l'impression. On voit quand même.
Ouais, est-ce que c'est du bullshit ou
bah voilà, quand Nana te raconte sa super anecdote, tu sens très bien que t'es la 10e personne à qui elle la raconte. Et bon, c'est pas grave, hein, tant pis, mais parce que voilà, elle doit le raconter à tel moment, c'est comme ça, t'as 5 minutes chrono. Bon, je pense qu'on peut pas, en tout cas, encore une fois, le temps. Sur le temps, ça se...
Tu te le prends dans les dents, quoi qu'il arrive.
Voilà. Donc sur ces sujets-là, je pense pas qu'on puisse. Mentir. Maintenant, le problème, c'est d'expliquer aux gens et de faire des fringues surtout accessibles, hein, qui proposent ça, donc avec une économie...
Ça veut dire quoi, accessible ?
Bah, ça veut dire... je sais pas, moi je dirais un jean, tu peux difficilement passer 80 euros, 70, 80, après, au-delà de 100... Enfin, quand on voit des jeans de créateurs, moi, je sais pas, l'autre fois, j'étais baladée au Bon Marché pour voir, pour m'inspirer, pour la rentrée, pour voir un peu, justement, parce que là, il y a des créateurs aussi qui sont exposés, puis il y a de la jeune création, puis des grandes marques aussi. Bon, après, c'est très niche aussi, le Bon Marché, c'est du luxe, mais quand on voit des très belles maisons, mais qui font des jeans magnifiques, certes, mais à 300 euros, bon, on sait très bien que c'est une petite fraction qui va les acheter, que c'est pas possible. Après, il y a des tas de marques aujourd'hui, elles fonctionnent comment? Elles fonctionnent sur les soldes, en fait, ni plus ni moins. J'ai l'impression que les gens n'achètent, c'est des marques, en fait, toute leur marge est faite pendant les soldes. Et s'ils arrivent déjà à faire du fric pendant les soldes, à moins 50%, c'est que les marges sont très élevées. Donc, il faut absolument que les marques, si elles veulent continuer à vendre... Il y a des modèles comme ça qui ont été viables. Je pense à la marque de lunettes, là, Warby Parker.
Warby Parker, oui.
Ouais, Warby Parker, bah, c'est super ce qu'ils font. Les mecs ont eu cette extrêmement bonne idée de casser en fait, les intermédiaires. Modèle, ouais. Voilà, donc ils cassent le modèle, c'est disruptif. Ils mettent il y a beaucoup moins d'intermédiaires déjà, et déjà aussi j'ai l'impression qu'il y avait ce côté là aussi, c'est-à-dire que tout d'un coup au lieu de dédier un énorme plan de financement au marketing et à la com, on se penche
dans le produit, hein.
Voilà.
C'est le produit qui fait le marketing, c'est le bouche à oreille.
Ouais, là j'ai vu une campagne aussi, je pensais à ça, mais je trouvais ça très smart, je pense que ça va se faire de plus en plus. Je crois que c'est pour la Fondation Vuitton, et j'ai vu ça dans le métro tout à l'heure, et en fait ils ont pris des photos que des gens ont fait chez eux. Donc c'est ni plus ni moins les comme si les clients faisaient la campagne de pub. C'est génial. Et du coup, ils ont dû demander à des gens de venir faire, j'en sais rien, ou un appel d'offres. Ah tiens, les 10 plus belles photos seront publiées en remerciant la personne. Puis les gens sont contents parce que du coup, ils sont montrés. Ils ont un petit affichage avec leurs photos. Je leur dis, tout le monde prend des photos. Moi, je suis sûre que... je sais pas, là, je voyais tout à l'heure une étudiante là... avec ses Véja, je peux se prendre en photo, truc, hop, on la voit. Enfin, je veux dire, voilà, presque comme une caméra embarquée. Donc, s'il y a une communauté qui se crée autour de ça, et que ça fonctionne, la marque, elle est viable à ce moment-là. Et du coup, elle peut faire le modèle économique qu'elle veut. Elle est plus sous la pression des financiers qui lui imposent un autre modèle économique dont elle veut pas. Et elle se libère de ses chaînes, en quelque sorte, quoi. Bon, après, ça met du temps, c'est compliqué, mais certains ont réussi à le faire.
Très bien.
Donc, pourquoi pas? Et sur l'écologie, écoute, hein, on va regarder les étiquettes quand on achète nos fringues maintenant.
C'est clair.
Tu regardes?
Moi, je regarde. Moi, j'achète, enfin, pratiquement plus rien de neuf, hein, honnêtement.
Tu vois, les fripes. Mon ado s'habille en vintage. Mm. C'est marrant, hein.
C'est fou, hein.
Mais alors ça, je sais pas, j'arrive pas à savoir le fameux rétro cool là de duel,
ouais,
Catel Pouliken. Et en fait, écoute, moi j'aime beaucoup, hein, je trouve ça très. Mais est-ce que c'est niche ou est-ce que c'est ça marche vraiment? Parce que là, on est à Paris, truc, je sais pas.
Bah moi j'ai le sentiment que ça marche vraiment, hein, ouais. Que c'est un truc qui va devenir mainstream.
Ouais.
Enfin, c'est ce qu'annoncent tous les rapports, que d'ici 2000, je sais pas, quelque chose, ça dépassera la fast fashion. Le second end.
Bah donc, écoute, j'espère parce que elle m'a sorti un chiffre très alarmant, Lidveille et Delcort, quand j'étais à Anti-Fashion. 100 milliards de vêtements produits par an. Mmh. Et ça ne comprend pas les accessoires, ni les, comment, et les sacs, les chaussures, etc. Donc t'imagines, c'est sachant que la moitié de la population n'est pas vêtue, quoi. Donc en fait c'est donc oui donc j'espère. Après il y a aussi cette il y a des boîtes aussi qui se sont lancées avec des vêtements partagés. Pareil, je pense c'est, en fait c'est encore ça va vers on va vers ça, mais ça met un peu de temps à se mettre en place. Ah pardon, voilà. C'est les enfants.
Ça veut dire que c'est la fin. Il faut que tu ailles ouvrir, non ?
Oui, il faut que j'aille ouvrir. Vas-y. Je suis désolée. Donc, je dis au revoir.
Non, et une dernière question, normalement, c'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast ?
Eh bien, mon mari qui va arriver, Auriel Carsanti.
Très bien.
Et j'aimerais beaucoup l'entendre parce qu'il a fait une très belle marque qui s'appelle Maison Standard. C'est comme ça qu'on s'est connus. Donc, on a une belle histoire tous les deux avec ça. Et voilà, c'était une marque qui avait, voilà, avec des, défend des belles valeurs et notamment cette transparence. Et donc, j'aimerais qu'il te parle de ses nouveaux projets.
Mais écoute, avec grand plaisir, présente-le-moi.
Il arrive.
Parfait. Salut.
Merci d'avoir écouté Entreprendre dans la mode. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité. C'est très important pour montrer que Entreprendre dans la mode est vraiment écouté. Tout aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence, car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Et surtout, ça me motive à faire de meilleures interviews. Il n'y a pas de pub sur ce podcast. Entreprendre dans la mode est financé par ses auditeurs sur patreon.com. Vous pouvez vous aussi rejoindre cette communauté et soutenir Entreprendre dans la mode à partir de 2€ par mois en allant sur patreon.com/entreprendre dans la mode. Le lien est dans la description de l'épisode. Enfin, pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.